Vous êtes sur RTL. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match. Bonsoir, bonsoir, bonjour à toutes et tous. Première de la saison. Plaisir vraiment à vous retrouver désormais tous les samedis soirs de 18h30 à 20h. Formule bonifiée, 30 minutes supplémentaires de débat, d'échange. Vous le savez aussi, parfois de polémique, mais toujours dans la bienveillance, avec bonne humeur et sourire. Et puis au fil de la saison, quelques surprises également, avec des signatures historiques de l'émission créée, vous le savez, début des années 2000 par le regretté Eugène Saccomanno. Ces signatures viendront nous rendre visite, et puis de temps à autre également, comme durant la période malheureusement de confinement, eh bien nous recevrons des joueurs, des entraîneurs, des présidents qui feront ou qui ont fait l'actualité. Bref, de tout cela, nous en parlerons tranquillement au fur et à mesure. On fait le match jusqu'à 20h, puis entre 20h et 23h, soir de Ligue 1, avec Lille-Rennes après le 0-0. 0 hier que vous avez pu suivre, on partit sur l'antenne de RTL. 0-0 entre Bordeaux et Nantes. Lille-Rennes donc, 20h, 23h également sur l'antenne de RTL. Alors qu'en ce moment même, le match Dijon-Angers ne touche pas tout à fait encore à sa fin, un quart d'heure à jouer. C'est Angers qui mène à Dijon par 1-0. Dans un instant, Frédéric Joly sur place, sans oublier à 19h. La première journée de Ligue 2, nous y serons également. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Et pour le premier, on fait le match de la saison à mes côtés, Stéphane Powels, chroniqueur RTL. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir chef.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, bonsoir.
Bonsoir chef alors.
Ah ouais. Bon, quand même. Xavier Barret, vous savez que j'ai...
En ces temps difficiles, il faut être prudent.
C'est terrible, je déteste
un
ça.
Un petit peu de lèche ne fait jamais de mal.
Je déteste cela et vous en profite. Et après on va dire, non, c'est de la fausse modestie. Bon. Xavier Barret, bonsoir.
Salut Christian, tout simplement.
Voix du football européen, ça tombe bien. Merci Xavier d'être avec nous. Et puis un grand plaisir de le retrouver également. Ça a été une voix dans On fait le match, puis il nous a un peu quitté, puis il est revenu. Et puis on le retrouvera assez régulièrement. Karim Nedjari, directeur éditorial sport du groupe Webedia. Je l'ai bien dit ?
Très bien, merci de votre invitation.
Bonsoir Karim.
Bonsoir.
Et puis ça tombe bien car Karim, sous les couleurs d'un autre organe de presse, à une époque, a longtemps suivi le Paris Saint-Germain. On pourra s'amuser.
On peut citer d'ailleurs.
Bien sûr, le Parisien aujourd'hui en France.
17 ans.
Et 17 ans. Donc on pourra s'amuser à faire un comparatif du PSG version Echter, Borelli, Brochamp, Tallard, Denisot, Pietri, Perpère, et avec les Qataris. Messieurs, quatre sujets principaux. Finale de la Ligue des Champions demain sur RTL, PSG, Bayern. C'est qui le plus fort ? Toute la France, et même Marseille, derrière le PSG, je pose la question. Phase finale à 8 sur un seul match, avec des résultats parfois atypiques. Est-ce que ce n'est pas une Ligue des champions au rabais ? L'Olympique lyonnais, éliminé en demi-finale par le Bayern. Attention, retour aux affaires ordinaires, gare à la chute. Ce ne sont que des questions. Hein. Je vous vois déjà grimacer.
J'étais en forme ce matin.
Enfin, nouvelle saison de Ligue 1. Va-t-on se régaler ? Est-ce qu'on se régale déjà à Dijon ? Dijon-Angers, Frédéric Joly, bonsoir mon ami.
Bonsoir. On se régale, c'est un grand mot. C'est un petit peu poussif tout ça. Et pour l'instant, c'est Angers qui fait la bonne affaire. Les Angevins mènent 1-0. Un but inscrit en première période suite à une frappe de Tube qui a rebondi sur le poteau de Gomis, le portier dijonnais. Et Traoré, le défenseur central, Ismaël Traoré, avait parfaitement subi pour du plat du pied, donner l'avantage ainsi à cette équipe d'Angers. On jouait la 22e. La réaction de Dijon, elle fut timide. Une frappe de Marié qui est venue sur le poteau de Bernardoni. Et pour l'instant, logiquement, serait-on tenté de dire, Angers mène 1-0 grâce à ce but de Traoré, alors qu'il reste, 13 minutes à jouer dans cette rencontre.
Et Frédéric, vous intervenez évidemment dès que vous le souhaitez, dès qu'il se passe quelque chose. Je le rappelle, à partir de 19h, quart d'heure par quart d'heure, place également à la première journée de Ligue 2. On a pour habitude en Coupe du Monde, en Championnat d'Europe, de dire que le match d'ouverture en général nous propose un tempo quant à la qualité des autres matchs d'une compétition. On n'a pas pu dire qu'hier avec Bordeaux-Nantes,
Jacques Paille dort encore,
Bordeaux-Nantes 0-0, on ne s'est pas régalé. Stéphane Powels,
j'ai un ami qui est toujours au stade, hein, je vous dis, il a passé la nuit quoi. Non, c'était vraiment c'était même faible, on peut le dire, et j'ai l'impression que l'entraîneur de Bordeaux se contentait de cela. J'ai dit, il aurait pu
être. Après, moi, je suis très sévère depuis très longtemps avec la Ligue 1 et j'ai peur que ça ne change pas beaucoup. Mais là,
pour le coup, je trouve qu'il y a quand même quelques circonstances atténuantes et pour Bordeaux et pour Nantes. La préparation a été très difficile pour Nantes avec de nombreux cas de Covid au sein de l'effectif. Du côté de Bordeaux, Jean-Louis Gasset n'a pas eu un seul match amical pour préparer son équipe. Je ne sais pas s'il connaît tous les membres de son effectif. Donc je suis un peu indulgent, même si j'ai malheureusement peu de doutes, en tout cas peu d'espoir sur le fait que ce soit flamboyant cette saison en France.
Mais c'est deux équipes qui ont rendu service au football français et surtout à la chaîne Media Pro qui se lançait hier. Normalement, le match c'était Marseille, donc à la dernière minute, le match a été programmé. Donc normalement, ils avaient 5 jours pour se préparer, ils n'en avaient que 4. Ils ont accepté, pour le bien-être du football français, de jouer. Et finalement, ça donne ça, quoi.
Ils avaient barré.
Oui, pareil, parce que c'était pas le match prévu, c'était pas le match attendu. Et Christian Gourcuff, comme Jean-Louis Gasset qui vient d'arriver, je crois que ça fait 11 jours qu'il est à Bordeaux. Et vous leur enlevez encore une journée de préparation. Non, c'était on pouvait difficilement attendre mieux.
Et M. Gourcuff n'a pas eu son adjoint, pas de colo pendant des mois, qui a été malheureusement touché par le Covid aussi. C'est quand même compliqué quand on a son premier adjoint qui n'est pas là pour préparer.
On reviendra sur la qualité du championnat de France de Ligue 1. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à seulement 20 minutes faciles de la fin de la rencontre, tous les joueurs étaient déjà carbonisés.
Oui, après, moi, ce n'est pas ce qui m'a le plus frappé. Moi, mais malheureusement, c'est la qualité technique. Alors, ça aide quand on est en forme pour faire des passes. Mais soit vous êtes très fort, soit vous êtes fort, soit vous êtes moyennement fort, soit vous êtes faible. Et malheureusement, ben, les latéraux, je ne sais pas si vous avez vu la finale de la Ligue Europa hier soir, c'est pas tout à fait la même qualité de pied quand il s'agit de faire un centre.
Trois buts à deux. Il y a eu 2-0 pour les Italiens, égalisation, 2-2 et finalement
superbe match.
Séville a été, j'ai trouvé, dans ce qu'ils nous ont proposé, quelle belle histoire, le foot qu'on aime, Lopetegui qui a des échecs et qui gagne hier cette compétition. J'ai trouvé que l'utilisation des flancs hier de Séville était vraiment intéressant. À l'ancienne.
Des côtés, vous voulez dire?
Bah oui, nous, en Belgique, on dit des flancs. Vous savez, à l'époque, Verkotteren, vous vous rappelez, c'est votre époque. Vous rappelez bien, Verkotteren qui s'entraînait.
Après un cirage de pompe tout à l'heure, ça commence.
Mais c'est bien, c'était vraiment. Enfin, je sais pas vous ce que vous avez pensé, mais j'ai trouvé ça très intéressant.
En plus, le match Bordeaux-Nantes souffrait, en plus de la comparaison avec la finale de l'Europa League qui était de qualité, donc c'est vrai que c'était très compliqué pour les Girondins et les Canaries.
Mais énormément, c'est l'absence du public. L'absence du public, parce qu'elle te porte pendant 90 minutes. Là, jouer dans des conditions comme ça de huis clos, ça doit être super compliqué. Évidemment que le spectacle va en souffrir. Et même le spectacle télévisuel va en souffrir. Parce que quand ça ne marche pas, en fait, on fait des plans dans le public, on voit les supporters en train de chanter, et là, il n'y a rien. Donc là, on est obligé...
Il n'y avait pas de public à la finale de la Ligue Europa.
C'est encore un autre axe de comparaison. C'est qu'on a regardé la Ligue Europa et la Ligue des Champions en ce moment, et on voit le championnat qui nous arrive d'un seul coup comme ça. Ça, c'est plus violent. Et en plus, l'autre, c'est une formule Coupe d'Europe, match sec, où il y a un résultat à la fin. Là, le championnat, on va commencer dans un rythme très lent.
On a vu des bons matchs en Bundesliga et en Angleterre sans public.
Alors, c'est vrai, mais là, je vais parler comme un supporter et pas comme un journaliste. Je rejoins un peu Karim. Et je l'avais déjà dit d'ailleurs à ce micro, moi j'ai un peu de mal de regarder un match, j'assume, un match de télé quand il n'y a pas de supporters, quand il y a des faux bruits et tout. Maintenant, je dois avouer que, comme dit Karim, ces matchs à enjeu, ça m'a permis quand même de me mettre dedans. La finale hier, j'ai pris mon pied, il faut être honnête, c'était vraiment agréable. Mais on tombe tout de suite dans cette violence du championnat de France. Excusez-moi, avec beaucoup de respect des équipes d'Angers et Dijon, c'est pas très excitant de les regarder sans public, sans rien. Moi, personnellement, j'ai du mal. Je dis pas que
Parce que quand il y a du public à Angers-Dijon, là, pour le coup,
je
suis très excité.
J'ai envie de te dire, Sébastien.
Non, mais je comprends.
Légèrement excité, un léger coït, mais je vais quand même le regarder. Je ne vais pas le regarder.
Je m'adresse à Karim Nedjari qui a fait beaucoup de télé. Évidemment, on a le son de l'ambiance à destination des spectateurs, des téléspectateurs plus précisément, pour avoir un semblant de quelque chose qui ressemble à un spectacle. Alors là, je pose vraiment une question, peut-être qu'il va vous paraître un peu idiote, un peu naïf.
Non,
pourquoi on ne mettrait pas cette même ambiance dans le stade pour le coup? Pour ne pas sublimer les joueurs, mais pour que les joueurs aient peut-être une certaine forme de résonance.
Ça a été pensé en mettant un DJ sur le côté, qui aura une table de mixage avec des applaudissements, des buts et des chants. C'est une réflexion.
C'est vrai. Longtemps, du reste.
David Guetta n'était pas libre. David Guetta a refusé.
Non, mais vraiment, c'était une réflexion qui a été faite. Maintenant, pour les gens de Media Pro, je sais qu'ils imaginent en tout cas qu'il y aura au moins jusqu'en septembre.
5 000
jusqu'à. Voilà. Remarquez, pour certains clubs, c'est pas mal, parce que certains clubs n'y arrivent pas à faire 5 000.
Lorsqu'il y a une erreur d'arbitrage, ou en tout cas, quand l'équipe reçoit l'équipe locale avec une décision qui n'est pas à l'avantage de l'équipe locale, eh bien le DJ, donc sous l'autorité quand même de l'UEFA, envoie les sifflets. On pose un problème d'éthique quand même.
J'ai beaucoup de mal avec ça. En termes d'éthique, c'est compliqué. Non,
bah non, mais après, c'est pas dans le stade, donc il n'y a pas de, de souci par rapport à ça.
Pour les téléspectateurs qui sont supporters.
Oui, mais après. Franchement, moi j'étais très sceptique.
Vous avez les deux réalisations maintenant.
Sur
beaucoup de chaînes, vous avez les deux réalisations. On vous propose avec les champs additionnels et sans les champs additionnels. Moi, je ne vous cache pas que je préfère regarder effectivement sans les sons additionnels. Chaînes. Sur certaines chaînes, tu peux regarder le match sans les sons additionnels. C'est ce que moi je fais la plupart du temps. Toutes les chaînes ne le proposent pas.
Bon courage.
Mais un certain nombre de chaînes le proposent. C'est beaucoup plus intéressant. Alors,
beaucoup plus intéressant.
Ben oui, parce que tu comprends, tu vois les consignes données par les entraîneurs. Alors parfois on comprend pas la langue, mais souvent c'est l'anglais qui est utilisé. C'est des mots simples et on peut suivre effectivement ce qu'ils disent aux uns aux autres.
Mais quand c'est en français, c'est encore plus simple. Mais Xavier, moi j'étais très sceptique parce que bien sûr on triche avec la réalité, c'est toujours un peu gênant. Mais moi je trouve que c'est une réussite. Ces bruitages, parce que ça te change toute la perception d'un match. C'est-à-dire que je suis persuadé que les matchs que tu vois sans accompagnement sonore te paraissent beaucoup moins intéressants et de moins grande qualité que lorsque c'est accompagné par un mouvement sonore. Alors, c'est une certitude.
Cela dit, Christian, je pense qu'on est tous d'accord pour être... On est content de revoir du football quand même.
Oui. Et si on n'est pas content de le voir à la télévision, eh bien, on l'écoute sur l'antenne.
Dijon-Angers, il faut peut-être mieux l'écouter que le regarder, vous voyez.
C'est qui le plus fort, Paris Saint-Germain-Bayern? On ouvre cette page finale Ligue des Champions, J-1. On aura les infos à partir de 20h avec les derniers entraînements du côté parisien et du côté munichois. La question est vaste, hein. On va ensuite attaquer plusieurs thèmes. À votre avis, c'est qui le plus fort? Le PSG ou le Bayern Munich sur une finale? Sébastien Tarrago.
Alors là, pour le coup, je pense que c'est totalement...
Il faut savoir que Sébastien est habillé tout en rouge.
Équilibré, et que la demi-finale du Bayern incite à la prudence sur le statut de favori des Bavarois. C'est-à-dire que le Bayern s'est imposé face à l'Olympique Lyonnais, mais avec un match de piètre qualité. Certes, le score est très favorable, mais ils ont été en difficulté. Et s'ils jouent comme ça dimanche, alors Paris gagnera. Mais ils ne joueront peut-être pas comme ça.
Peut-être, mais si Paris joue comme il l'a fait contre l'Atalanta, donc on peut pas. Moi, je vais me mouiller. Je mets une pièce sur le Bayern. Je vais me faire engueuler par tous les supporters de Paris pour plusieurs raisons. Je pense que Paris, effectivement, on nous vend. J'ai vu dans l'équipe aujourd'hui un collectif, de l'enthousiasme.
On va y revenir.
On nous vend ça.
On va y revenir.
Je signale que le Bayern, ça fait longtemps que ce collectif, ils l'ont.
On ne le vend pas, Stéphane. Non. C'est la réalité. Pardon de te couper. Juste brièvement, le terme vendre, je crois qu'il n'est pas approprié parce que c'est une réalité et surtout, ça a du sens parce que au cours des derniers mois et des dernières années, ce n'était pas le cas.
Donc tu vas dans mon sens, c'est que maintenant on nous dit qu'il y a une superbe ambiance et apparemment on nous le vend pas, c'est vrai, mais au Bayern ça fait un bon petit moment quand même qu'il y a un collectif qui existe et que c'est une équipe.
Pas tant que ça puisqu'ils ont changé d'entraîneur cet automne.
Donc vous avez tous décidé que je ne peux pas le vous
voir. Non, mais juste cette précision.
Alors, je voudrais juste aller sur mon point de vue sur la partie sportive, c'est que je pense que le Bayern a géré, alors c'était pas génial contre Lyon, je pense quand même, j'ai vu quelques joueurs un peu cramés, je veux bien revenir sur ça, Müller et compagnie, mais moi je pense quand même qu'ils ont un tueur devant qui s'appelle Lewandowski, je pense qu'il a faim, je pense que je l'ai rarement vu avec autant de conviction que ce que j'ai vu les dernières semaines, parce qu'il y a un objectif pour lui de battre un record et c'est peut-être la dernière. Moi je suis toujours très sceptique d'Icardi, voilà, c'est mon point de vue, mais je le dis.
Mais
c'est une bonne nouvelle, mais ça fait quand même longtemps que je pense que qui marque au Paris Saint-Germain depuis les derniers matchs, ce sont pas forcément les attaquants. Et donc
le Bayern non plus.
Je pense, alors là vous avez tous envie de dire que Paris va gagner, j'ai bien compris. Moi j'ai envie de vous dire que je pense que dans l'effectif et dans le banc. Non mais je vous taquine.
Tu vas loin.
Vous me chargez, je peux vous charger un peu. Non, je pense vraiment personnellement en boutade, j'ai bien envie que ça soit très clair, j'ai pas envie que Paris perde, je serais très heureux pour le foot français que le Paris Saint-Germain gagne. J'ai envie de dire que ce que je connais de cette équipe du Bayern me donne une puissance plus forte pour battre le Paris Saint-Germain.
C'est vrai qu'on nous vend quand même une bande de copains. Ce matin, c'était assez éloquent, à la fois dans l'équipe, sous la plume de Damien Degore, de mémoire, mais également
dans le Parisien.
Dans le Parisien. Je crois que ce sont deux exemplaires, les deux journaux de samedi, qui devraient être conservés par les clubs pour les fois où ils nous diront que la presse n'arrête pas de les maltraiter. Parce que là, pour le coup, on est dans un monde de bisounours. On est vraiment avec une équipe de copains. Vous croyez à ça, Karim Nedjari?
Je me souviens d'un grand mot d'un philosophe qui s'appelait Marcel de Sailly, qui te disait...
j'ai eu peur.
Est-ce qu'on est une bonne équipe de copains parce qu'on gagne, ou est-ce parce qu'on gagne, on devient copains?
Tout est là.
Mais en fait, là, en ce moment, on a tellement raconté pendant 20 ans tous les déboires de ce club, qui était souvent la risée de la France, que là, en ce moment, on a l'impression que tout roule. Et depuis Dortmund, depuis le moment où le Covid et tout ça...
Les 10 dernières minutes, tout ne roulait pas. Hein.
Oui, mais justement, ça fait partie... C'est pour ça que je pense que c'est l'année du PSG ou jamais.
Mais c'est ça qui est incroyable également. Depuis Dortmund... Depuis la défaite contre Dortmund.
C'est-à-dire que quand ils ne se voyaient pas, ils s'entendaient super bien pendant le confinement.
Depuis la défaite du Paris Saint-Germain, c'est là qu'est né un groupe.
C'est là où est né un groupe. Ils vont danser nus au milieu du Covid. Ils font la position du Bouddha pour se moquer de Haaland. Les réseaux sociaux relaient ça très très bien. Mais il y a une chose aussi, Christian, qui est importante, c'est qu'on n'a plus accès aux joueurs. On n'a plus accès au club.
Et alors ?
Donc, en fait, on raconte l'histoire que les joueurs veulent bien nous raconter via leurs réseaux sociaux. Ça, c'est différent. Mais donc, si vous ajoutez ça, les résultats positifs, où ils gagnent ou alors qu'ils ne doivent pas gagner, des pénaltys, même contre tout le monde ne se souvient pas, mais le pénalty contre Lyon, ça peut basculer d'un côté à l'autre. Là, de la même manière, Atlanta, ça joue à 3 minutes. Donc, en fait, on raconte l'histoire.
Mais ça, c'est l'histoire du sport, Karim. C'est-à-dire qu'à un moment, je vous rappelle, la Coupe du Monde 1998... France-Paraguay, 8e de finale, eh ben t'es dans le trou et tu peux être éliminé et c'est une catastrophe. Sans aller si loin, en 2018, Didier Deschamps, il est à deux doigts de perdre son poste en 8e
oui,
de
mais
finale.
Mais l'histoire, elle est toujours écrite par les vainqueurs.
Et oui,
toujours.
Oui.
Mais ça, que dit Aimé Jacquet, si jamais Baggio met le but en quart de finale contre l'Italie,
bien sûr.
Aimé Jacquet part habiter en Chine. Hein.
Les copains, d'abord, on y reviendra dans un instant sur le bon été d'esprit qui semble régner au sein du Paris Saint-Germain. Même chose d'ailleurs du côté du Bayern Munich, mais dans un style un peu plus.
Bavarois.
Sobre.
Ça, c'est mauvais signe parce que les Allemands, ils aiment bien quand ils se foutent sur la gueule. Un petit
une
peu.
Page de publicité. Angers mène toujours à Dijon sur le score d'un but à zéro. Bientôt la dernière minute, sans compter le temps additionnel. Nous retrouverons dans un instant, bien évidemment, Frédéric Joly, dont on me dit dans l'oreillette que c'est l'anniversaire. C'était hier. Publicité.
RTL, on refait. Spectacle. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match ce soir à 18h49 en compagnie de Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, Xavier Barret, l'une des voix sommitées du football européen, l'ami Karim Nedjari, dont c'est le comeback dans On refait le match, et Stéphane Powell. C'est l'anniversaire donc de Frédéric Joly. C'est une indiscrétion de Karim Nedjari. Frédéric Joly, on ne te demandera pas ton âge, mais bon anniversaire malgré tout.
Merci, il est fort ce Karim Nedjari. Il est trop fort.
Il a obtenu cette indiscrétion, et d'ailleurs on ne le dira pas. Toujours 1-0 pour le score.
Exactement, il y aura 3 minutes de temps additionnel, il en reste 1:30 à jouer et Angers qui mène donc 1-0 avec ce but de Traoré. Ismaël Traoré, le défenseur central qui avait bien suivi, qui a profité d'un ballon renvoyé par le poteau du gardien dijonnais pour donner l'avantage à cette équipe d'Angers. Une petite rencontre, hein, vous le disiez, ça manque vraiment, vraiment de rythme. Il a eu un petit coup de mieux pour Dijon lorsque Samaritano est entré sur la pelouse, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et Bernardoni est d'ailleurs en possession du ballon. Il va pouvoir dégager son équipe d'Angers, le portier d'Angers, dans un instant, alors qu'il nous reste une petite minute à jouer et que Angers, pour l'instant, mène 1-0.
Tu nous appelles, Frédéric, pour solder le résultat de cette deuxième rencontre de Ligue 1 après le 0-0 entre Bordeaux et Nantes hier soir, après 19h. Le deuxième débat, ce sera le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit être soutenu partout en France et même ailleurs, et notamment à Marseille? Et je pense qu'il y aura quelques messages sur les réseaux sociaux en compagnie de Baptiste Durieux en régie pour les premiers messages.
Oui, premier message sur ce débat. Est-ce que le Bayern Munich est plus fort que le Paris Saint-Germain? Inversement, message intéressant de Vincent. Alors, il pose la question, le Bayern est-il meilleur que le PSG? On va répondre précisément, nous dit Vincent. Gnabry est-il meilleur que Mbappé? Non. Müller ou Lewandowski plus dangereux que Neymar? On est loin de pouvoir l'affirmer. Alcantara vraiment plus fort que Verratti? Bah non plus. Boateng suleux, infiniment supérieur à Marquinhos, Thiago Silva ou Kimpembe? Certainement pas. Puis il termine avec le gardien, évidemment. Est-ce que Neuer a une classe d'écart avec Navas? Je ne crois pas non plus. Vincent qui rajoute également, Paris a toujours eu l'effectif, sauf que Paris a l'équipe et le collectif en plus cette saison. Contre le Bayern, ce sera jeu égal, une finale sans favori, point final.
Et vous n'hésitez pas à nous rejoindre, notamment sur le compte Twitter @RTLFoot ou sur la page foot.rtl.fr. Messieurs, je suis là un peu pour vous titiller. Alors évidemment, ça ne va pas plaire aux supporters du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on découvre à la veille de cette... Fini, Frédéric Joly?
Terminé à l'instant même. D'accord. Sur cette petite victoire mais importante pour Angers qui débute bien par ce 1-0, le but de Traoré, Ismaël Traoré, le défenseur central qui a repris un ballon retourné par le poteau de Gomis et qui a permis à la 22e minute à Angers de prendre l'avantage. Marié pour Dijon a également touché le poteau mais a eu moins de réussite. Le score final 1-0 pour Angers ici à Dijon.
Pour, so- l'autre pour son anniversaire, on est obligé de l'envoyer là-bas, à Dijon. Enfin, c'est le seul match.
C'est le club qu'il est censé couvrir.
Ah d'accord, donc, c'est pour taquiner un petit peu.
Bon, Dijon, ça jouait bien la saison dernière.
Hein. Ouais, c'est vrai.
Ça jouait pas mal en tous les cas. Ouais. Alors, on semblerait découvrir que Navas, c'est le boss du Paris Saint-Germain. On semblerait découvrir que Neymar, désormais, est une anti-star. Et que Mbappé a compris que c'est avec les autres qu'on gagnera, et pas à deux, sous-entendu, pas que Mbappé et pas que Neymar. Avec un constat quand même un peu tardif. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé de vous énerver un peu, mais voilà.
Moi, je peux.
Y aller.
M'esclave. J'ai quand même vu un club qui était notamment contre l'Atalanta tributaire d'un Neymar. Puisque Mbappé, je vous rappelle qu'il était blessé gravement, enfin c'était catastrophique, on en voulait au monde entier à Perrin, quoi. C'était terrible, l'histoire, ça fait la une du pays. Bon, il a couru comme un lapin trois semaines après, et donc c'était le club, on avait besoin de Mbappé et de Ney, hein, le Ney, comme il dit Monsieur Tuchel, il dit le Ney. Et bien, tout d'un coup, maintenant, comme dit Christian Olivier, maintenant c'est un collectif, c'est une équipe, c'est vraiment une solidarité. Moi je veux bien, hein, ils peuvent un petit vélo, une grosse sonnette, mais je veux dire, c'est pas en guise sous roche, c'est baleine sous caillou, quoi. On est en train de nous vendre des trucs là de malade, quoi. Moi je veux bien que cette équipe, et depuis Dortmund, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a une espèce de révolte dans le vestiaire, mais venir nous faire croire maintenant que c'est 11 sur le terrain, parce que comme dit Karim, ils sont allés danser au Macumba Night, enfin, moi j'y crois pas trop, quoi. Je pense que vraiment, c'est ce qu'il disait, je pense, Karim, tout à l'heure, on se souviendra de la défaite ou de la victoire. Si la victoire, on nous dira qu'il y a un groupe magnifique qui a été construit, s'ils perdent, vous nous expliquez qu'il y avait des clans dans le vestiaire. Je trouve que tout à l'heure, je suis d'accord de ce qu'on nous a dit, puis j'arrête, la presse, on peut pas voir les joueurs. On est en train de... Et c'est peut-être vrai d'ailleurs, mais on nous vend des trucs là, c'est magnifique, le collectif, le machin. Moi j'ai vu contre l'Atalanta, pas de collectif, s'il n'y a pas un coup de génie à la fin, pendant 3 minutes,
oui,
où ils sont sur les genoux.
C'est quand même la rentrée de Mbappé qui fait basculer le match contre l'Atalanta, parce que jusqu'à ce moment-là, ils n'y arrivent pas.
Alors,
c'est
bon
vrai,
joueur, hein.
C'est vrai. Non mais on sait, mais tu dis que Mbappé il était blessé, etc. etc. Oui, Neymar tout seul n'y arrivait pas, bon, il n'était pas en réussite, et qui est-ce qui effectivement met le feu dans
parce
la défense d'Atalanta, c'est Mbappé.
Et que l'entraîneur il se trompe sur deux changements. Je suis désolé, tu dois attendre la 89e minute, Mbappé il rentre, et sur sa vitesse il va en accélération sur des mecs qui sont cramés parce que l'Atalanta n'a pas de banc, et tu joues contre l'Atalanta, il faut quand même être raisonnable. Et PSG a le plus grand budget d'Europe. Enfin, je sais pas, moi je
fais mesurer. Tu parles de deux choses différentes, Stéphane. Si tu veux parler de jeu, moi j'ai bien envie d'en parler, et je vais sans doute te rejoindre. Je trouve notamment que le milieu de terrain parisien en quart de finale a été en dessous de tout sur le plan technique. Je n'arrive pas à comprendre comment on pouvait avoir un effectif aussi faible sur le plan technique avec un budget pareil. Ok, là très bien, mais en revanche, dire qu'ils ne s'entendent pas, que c'est les clans, que
je pense sincèrement que
y ait de la communication autour de ça, oui, mais bien sûr, mais il y en a toujours. Mais en revanche, il y a des images qui ne trompent pas. Les images de joie du banc parisien face à l'Atalanta, elles ne trompent pas. Et je pense qu'elles ont du sens. L'attitude de Neymar sur le terrain, sur le repli défensif.
C'est vrai,
elle ne trompe pas.
Il court,
l'attitude d'Mbappé quand il fait la passe plutôt que de tenter la frappe et que ça fait but, ça ne trompe pas. Ça,
au travers du jeu,
faits.
Il y a des signes effectivement positifs.
Mais
parce qu'on ne trompe pas.
Mais après, ça veut pas dire qu'ils vont devenir parrains du prochain enfant de l'arrière droit. Non. Mais ça, c'est la vie. On est copains d'un instant, et puis après, ça s'étiole. Et puis après, on s'engueule. Et puis après, on se réconcilie. C'est la vie. C'est valable pour nous tous.
Karim Najari.
Non, c'est vrai que pendant des années, le Parisien et l'équipe cherchaient la petite bête et trouvaient souvent la petite bête, mais non pas la trouver. On leur donnait la petite bête. Et donc ce club-là était facile parce qu'il était ouvert aux quatre vents. Là, cette année, il faut parfois ne pas chercher non plus à créer de la polémique quand il n'y en a pas. Et là, on sent, et moi je suis assez d'accord, quand on les voit, moi je pense que c'est plutôt dans la manière, quand par exemple ils ont fêté le but sur Choupo-Moting, il se passe quelque chose entre eux. Mais je suis d'accord avec toi, c'est si la victoire se fait, là ils se reverront peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. On en a vu des clubs comme ça. Mais je pense qu'en France, et comme en Italie, comme en Espagne, les Latins ont besoin de s'aimer quand même un peu. Les Allemands ont besoin de se mettre sur la gueule. On sait que dans 82, notamment, ils se tapaient dessus, mais ça ne les a pas empêchés de marcher sur la France. Donc ouais. C'est ça la différence qu'il peut y avoir. C'est pas pour autant qu'on prend le public pour des oseaux, si tu veux. Mais là, pour une fois, la seule chose qui peut se passer dans ce club-là, elle est importante, c'est qu'ils sentent tous, du magasinier jusqu'au Qatar, que c'est l'année ou jamais. parce que tout se goupille bien. Pour la première fois, personne n'est blessé pendant les matchs. Tu as l'impression qu'il se passait quelque chose. Et je pense aussi qu'une chose qui est importante, c'est que Neymar, maintenant, il est fondu dans un groupe, alors qu'avant, il était une espèce de petit cador.
Mais Neymar, moi, je pense que c'est le contraire. Tout se passe bien parce que justement, il y a eu des choses qui se sont mal passées et que du coup, ils se sont resserrés. Bah, parce que tu dis tout se passe bien. Il y a quand même Meunier et Cavani qui ne veulent pas prolonger leur contrat. Accessoirement, Thiago Silva et Choupo-Moting qui se remettent. Tu peux pas dire que tout se passe bien. Tu peux dire que justement le groupe s'est réduit au minimum.
Ça se passe bien au niveau du groupe. Après au niveau
maintenant,
on peut parler au niveau de l'équipe et du jeu. Du jeu, il y a beaucoup à revoir. Et Stéphane a raison. Donc maintenant
ça se passe bien. Mais tu peux pas dire que tout se passe bien. La compétition s'arrête, le championnat de France s'arrête.
Ils se retrouvent. La Ligue des Champions. Ils ont eu le projet du Qatar écrit depuis 7 ans aurait été abouti.
Oui, avec un heureux concours de circonstances, c'est tant mieux pour Paris.
Oui, mais c'est tellement dur d'avoir la Ligue des Champions qu'on pourra au moins on pourra les féliciter une fois dans l'histoire du PSG en 50 ans peut-être. Non,
oui, mais moi je pense que
le Qatar a abouti un peu tardivement. Je ne sais plus qui disait ça.
Non, mais quand le Qatar est arrivé en 2011, l'objectif était de gagner la Ligue des Champions en 5 ans. Ok, ils n'y sont pas parvenus, mais ils avaient été imprudents, puisque tout le monde sait que des clubs, ça se construit, une culture européenne, ça se construit. Moi, je crois que tout ce qui se passe est positif pour le Paris Saint-Germain, qu'il y ait victoire ou qu'il y ait défaite. Parce que pour moi, c'est le début de quelque chose et ce n'est pas la fin de quelque chose. Je pense fondamentalement qu'avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être que là, cette finale va peut-être permettre au Paris Saint-Germain de conserver Neymar et Mbappé un peu plus longtemps, par exemple.
Mais
peut-être.
Plus, Sébastien,
en plus du problème du Covid et de l'aspect financier. Et ça change tout. Parce que si Neymar, aujourd'hui, il est heureux d'être au Paris Saint-Germain, c'est plus la même musique, ce n'est plus le même joueur.
Alors, il y a une petite nouveauté dans leur fait de match. Et une fois le débat terminé, il faut dire oui ou non hein, à la question posée.
Oh non, mais si c'est qui va gagner,
alors là, c'est qui le plus fort, le PSG ou le Bayern sur la finale, Sébastien. Allez.
Le Bayern,
Stéphane Powell.
Et moi je vais dire le PSG parce que je trouve que depuis 3-4 jours, et donc je dis le PSG, depuis 3-4 jours j'ai vu que le Bayern essayait de changer de tactique et tout ça, je sens une certaine.
Le PSG, donc pour Karim Nedjari. 18h59, la publicité derrière les informations de 19h. Deuxième thématique, toute la France et même Marseille. Derrière le Paris Saint-Germain, je pose la question.
RTL, on refait. Économisons-la.
RTL. Et 19h. Les informations de 19h avant la suite dont refait le match en compagnie de Sébastien Rouxel.
Jusqu'à 646 km de bouchons cumulés enregistrés à la mi-journée. Circulation compliquée pour ce nouveau samedi de chasse et croisée. Toujours de grosses difficultés sur l'A7. 39 km de ralentissement en ce moment en direction de Lyon. Circulation compliquée également sur l'A6 en direction de Paris et sur l'A10 entre Bordeaux et Nantes avec un trafic très dense au niveau de Poitiers. Demain, ce devrait être plus calme. Bison futé voit orange dans le sens des retours, vert dans le sens des départs. Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari en déplacement à Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne, ancien député de la circonscription, il a rencontré le président de l'association des familles de martyrs après la découverte d'inscriptions révisionnistes sur le mémorial. Tout sera fait pour retrouver les auteurs de ces tags, promet Emmanuel Macron. Prévenir les violences et empêcher une contamination de masse, le double objectif du dispositif de sécurité mis en place demain soir à Paris pour la finale de Ligue des champions. Les Champs-Élysées seront réservés aux piétons dès 21h et 2000 masques seront distribués aux abords de l'avenue. 3000 policiers et gendarmes vont être déployés dans la capitale. Deux policiers blessés hier soir dans le quartier du Mirail à Toulouse. Un homme de 20 ans qui faisait du rodéo sur son scooter leur a foncé dessus pour échapper à un contrôle. Il a été placé en garde à vue. Un invité surprise en clôture des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, attendu ce soir à Pantin. Une semaine après ses propos polémiques dans l'ouvrage du président de la Fédération des chasseurs. Fervent défenseur de la chasse, le garde des Sceaux y dénonce, je cite, les ayatollahs de l'écologie. Le plan de relance ne sera finalement pas présenté mardi, annonce du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Il a été repoussé d'une semaine afin de se consacrer pleinement aux échéances de la rentrée sur le plan sanitaire. Diagnostic en cours pour Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, hospitalisé depuis ce matin à Berlin. La l'avocat de 44 ans, est toujours dans le coma. Son entourage dénonce un empoisonnement, mais les médecins russes l'assurent. Aucune trace de poison n'a été détectée dans son organisme. Et puis en MotoGP, le sextuple champion du monde, Marc Marquez, pourrait rater l'ensemble de la saison. Blessé au bras droit, l'Espagnol devrait être absent 2 à 3 mois, annonce de son équipe Honda. La météo demain, nuages et éclaircies vont s'alterner sur une grande partie du pays, avec quelques averses entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et la Bretagne. Ciel bleu en revanche en Méditerranée, mais le Mistral et la Tramontagne souffleront assez fort. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 9 et 22 degrés. Dans l'après-midi, il fera 21 à Lorient, 24 à Tours, 25 à Bordeaux, 27 à Chambéry et 32 à Montpellier. Les courses, elles avaient lieu à Deauville cet après-midi. Il fallait jouer le 10, le 12, le 9, le 6 et le 4. RTL, 19h03, la suite dont refait le match, c'est avec vous Christian Olivier.
Économisons-la.
Bonne soirée et bel été avec RTL.
RTL, toujours avec vous. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
19h et bientôt 5 minutes, on fait le match en compagnie ce soir. C'est la première de la saison en compagnie de Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous.
Rebonsoir. Xavier Barret, voix européenne du foot.
Salut Christian.
Retour de Karim Nedjari également.
Bonsoir à tous.
Qui est le directeur éditorial sport du groupe Webedia. Et puis Stéphane Powell.
Bonsoir chef.
On entend très souvent dans les émissions de RTL. Plusieurs infos les amis. Un rappel du résultat de Dijon-Angers pour tous ceux qui nous rejoindraient. Angers l'a emporté à Dijon 1-0, c'est le deuxième match de la première journée de Ligue 1 après le 0-0 entre Bordeaux et Nantes hier. La Ligue 2, le premier match de la première journée cet après-midi a vu la victoire de Dunkerque, promu du championnat de France.
Ils ont survolé, ils ont survolé le national. Hein.
À Toulouse, un but à zéro. L'occasion pour moi, pour nous, de saluer Anthony Tognetti. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Christian, bonsoir à vous toutes et à vous tous.
Qui nous coordonne les résultats en cours des autres matchs de Ligue 2 en direct de Mezzavia, Anthony.
De Mezzavia, exactement, parce que la Seine ne peut pas jouer dans son terrain à cause de la pelouse qui est en très mauvais état, va être changée cette semaine. Donc on joue depuis 5 minutes ici en Ligue 2, 0-0 entre l'ACA et Châteauroux, mais déjà deux buts dans cette première journée. Valenciennes a ouvert le score face à Pau grâce à Guillaume et Sochaux a ouvert le score du côté d'Auxerre, but de Diédiou. Sur les autres rencontres, donc Clermont-Camp, Amiens, Nancy, Chambly-Paris, Guingamp-Niort et Rodez-Grenoble, c'est du 0-0 messieurs.
Anthony Tognetti, merci, et qu'on retrouvera quart d'heure par quart d'heure durant cette deuxième heure dont refait le match, et après 20h également, 20h-21h, les préparatifs de Lille-Rennes, invité Gérard Lopez, une page Ligue des Champions également, beaucoup d'informations, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Le premier débat a été posé, c'est qui le plus fort? Vous vous êtes plus ou moins mouillé entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, on réécoutera l'émission en podcast pour voir si vous avez eu raison messieurs. Le deuxième débat risque de ne pas plaire aux puristes du football, mais je tenais tout de même à le poser, car RTL est une radio généraliste qui s'adresse à tous les publics, public pas forcément spécialiste de la chose du football, et qui ne comprendrait pas pourquoi un supporter de Marseille, très exceptionnellement, ne supporterait pas le Paris Saint-Germain quand le PSG joue une finale de Ligue des Champions. Je m'appuie sur les propos de Roxana Mara Sineanu, au ministère des Sports.
Ça commence mal.
Il faut que tous les Français soient derrière le PSG, c'est important. J'en appelle à la conscience et à l'enthousiasme de tous les Français pour le football, et même à Marseille, ce serait bien qu'on soutienne Paris. On reviendra sur l'épisode où il a été interdit pendant quelques heures de porter le maillot du Paris Saint-Germain. C'est le préfet de police qui a décidé, Emmanuel Barbe, qui a fait marche avant, marche arrière.
Champion du monde.
Il n'a pas eu le choix.
Normal, il était responsable précédemment de la prévention routière. Ouais. Donc la marche avant, la marche arrière.
Visiblement, d'après nos confrères du Monde, il n'a pas eu le choix et M. Darmanin lui a demandé de faire marche arrière.
Il aurait fait mieux de rester en poids mort. Hein,
il aurait eu le Conseil d'État et beaucoup de tribunaux sans doute aux trousses.
Christian, c'est... Franchement, quand on a vu cette histoire-là, c'est ahurissant.
Non, alors d'abord. Ouais. Faut-il supporter l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, quand on est supporter de l'Olympique de Marseille?
Oui.
Stéphane Powells.
Oui, parce que dans l'intérêt du football français, il faut quand même que les clubs gagnent. Moi, je vais vous dire, alors vous allez me dire, ouais, tu dis ça parce que t'es pas français, parce que t'es belge, mais moi je vais vous dire, Lyon, j'ai supporté, Marseille, j'ai supporté, et Paris, je vais supporter. Contrairement à mettre une petite pièce sur le Bayern, à un moment, il faut être logique. J'ai toujours, vous êtes quand même tous ici autour de la table des anciens du milieu du football, on a toujours vu des rivalités de maillots. Ben, excusez-moi, mais Lyon, Saint-Etienne, je suis du Nord, de Schnorr, Lille et Lens, ça a toujours existé. Et donc, on a le droit. Moi, je vais vous dire un truc, je vais vous surprendre. Je suis, mon petit cœur est lillois, vous le savez bien. Si demain Lens joue en Coupe d'Europe, je vais supporter Lens dans l'intérêt du football. Alors, qu'est-ce que c'est que ces animosités,
Sébastien?
Moi, je comprends pas.
Les gens ont tous les droits, y compris celui de ne pas supporter le Paris Saint-Germain.
Mais donc ils ont le droit de mettre un maillot.
Y compris celui de ne pas supporter l'Olympique de Marseille si un jour l'Olympique de Marseille dispute une finale de Coupe d'Europe. Il faut arrêter d'exiger des gens qu'ils aiment, qu'on décide en tout cas à leur place, qu'ils doivent
mais
aimer
on n'exige
ou pas,
pas
aimer. C'est les déclarations, comme d'habitude, on a, maintenant c'est traditionnel, mais de Madame la ministre déléguée...
Mais elle peut s'entendre,
elle n'exige pas. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle dit n'importe
oui,
quoi.
Oui, mais alors là, bon, ça
n'engage que moi, il n'y a aucun problème.
Il n'y a que moi, il n'y a aucun souci.
Elle n'exige pas,
il suffit de l'écouter.
Elle encouragerait.
Oui, bien sûr, mais c'est incroyable. Cette histoire est insensée, chacun fait ce qu'il veut, vous n'exigez de personne qu'il vous aime. Ça n'existe pas, ça.
Karim Nedjari.
On est sur la première radio de France, et vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est important que le grand public comprenne. Le football, c'est créé par les concurrences entre quartiers, entre villes. Comme, par exemple, à Londres, entre Tottenham et Arsenal, entre Everton et Liverpool. Donc, le football, il est créé là-dessus, à travers les oppositions. Parfois, ça va à la haine, qu'on n'aime pas, mais c'est par les oppositions. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Sébastien.
Mais lorsqu'on joue un championnat national...
Moi, le politiquement correct me fatigue. On n'est pas obligé d'aimer le PSG, on n'est pas obligé d'aimer le Marseille. Les gens font ce qu'ils veulent. Et si les gens de Marseille sont contents de la défaite...
Dans
la courtoisie. On n'est pas obligé de se mettre devant une bannière patriotique avant chaque match. Après, chacun fait ce qu'il veut demain. Et je suis d'accord que si à Marseille, ils sont contents que... Parce que je peux comprendre qu'à Marseille, à jamais les premiers, qui sont les seuls à gagner la Ligue des Champions, qui ne souhaiteraient pas que le PSG les rejoigne. Je peux comprendre ça, mais moi je peux comprendre les oppositions. Je n'aime pas non plus quand les joueurs rentrent dans le vestiaire et qu'ils s'embrassent des deux côtés. Moi j'aimais bien quand il y avait les deux équipes qui rentraient dans le couloir des vestiaires et qui se regardaient comme en chien de faïence. Aujourd'hui ça s'embrasse et tout ça. Moi j'aime les oppositions, j'aime quand il va y avoir un match réellement.
La querelle de clochers auquel vous faites allusion et qui est la vraie nature du football et du sport en général, hein, la Sioule au Moyen-Âge qui a amené c'est le foot et le rugby moderne, ces querelles de clochers aujourd'hui elles n'existent plus à cause du professionnalisme. Ce que tu décris Karim, c'est effectivement le joueur qui va d'un contrat, oui je suis à Marseille pour la vie, et puis un an après il va signer au PSG parce qu'on lui propose deux fois plus. Voilà, c'est le professionnalisme qui a détruit cet esprit-là. Alors après, que les supporters gardent l'amour du maillot, qu'ils gardent cet attachement à un club, à une ville, moi ça me choque pas. Vous croyez que quand le Barça est en finale de la Ligue des Champions, les supporters du Real de Madrid sont derrière le Barça pour l'intérêt de l'Espagne? Vous croyez que quand Liverpool est en finale de la Ligue des Champions, les supporters de Manchester United, ils sont derrière les Reds? Non. Donc moi c'est pas choquant, je trouve que les supporters marseillais, j'entendais des micro-trottoirs à ce sujet, soit pas derrière le PSG. Ils regardent la finale comme ils veulent. Et je pense qu'il y a pas mal de supporters parisiens qui n'étaient pas derrière l'OM de Tapie à l'époque. Et ça peut se comprendre aussi.
On y reviendra justement. Non, mais tu me tends la perche, Xavier. Moi, je me souviens quand même qu'en 93, il y avait quasiment toute la France qui était derrière l'Olympique de Marseille. Mais je me souviens qu'en 76, il y avait toute la France qui était derrière le Saint-Étienne.
Alors, ça a changé, les clubs ont changé. Le Paris Saint-Germain a annoncé sous une ère qatari. Il y a toute cette prophétisation qui a changé la mentalité globale.
Vous voyez la nuance entre clubisme et supporterisme?
Mais non, mais c'est différent.
Clubisme, c'est quand même quelque chose très...
Non, mais Christian, je voulais juste dire que bien sûr que on ne peut pas obliger les gens d'aimer. C'était pas ça, moi, le fond. On a répondu à votre question. Le fond, c'est que... C'est là où je te trouve très sévère avec la ministre. C'est que... Je ne suis pas le porte-parole de la ministre. C'est que je pense que c'est intéressant d'entendre aussi...
Tu veux plus de problèmes, toi?
Non. Peut-être.
Besoin d'un porte-parole.
Je souhaite qu'on calme le jeu. Je pense que c'est pas nécessaire. On a en dit tout à l'heure ce qu'a dit Karim. On ne peut pas en arriver à la haine. Alors qu'il y a des animosités.
Je crois que
ça on peut pas, et donc il faut écouter ce discours là aussi.
Ces déclarations toutes ces décisions qui participent de cette pseudo-rivalité. La haine, elle n'existe plus. Il n'y a plus de rivalité sportive entre ces deux clubs.
Sébastien,
il n'y a plus de rivalité sportive entre ces deux clubs. Alors le match, on sait qui a gagné.
Christian, donc, je vais juste terminer une belle histoire.
Je vais terminer. Moi, je sais que pour un documentaire sur Samir Nasri, il vient, comme vous le savez, des quartiers de Marseille, des quartiers nord de Marseille. J'ai passé un peu de temps dans ces quartiers. Et j'ai discuté avec les gens. Et là, on est loin des déclarations des ministères. La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de gamins qui ont des maillots du Paris Saint-Germain.
Dans les quartiers de Marseille ?
Ben oui. Il y a des gamins qui ont des maillots du Paris Saint-Germain. Parce que quand tu es gamin, t'es amoureux de Neymar, t'es amoureux de Mbappé. Ouais. Et t'es un enfant... Et c'est accepté bien plus qu'il y a 20 ans. La haine, aujourd'hui, elle n'existe plus.
Non, mais on devient supporter. Barcelone, le service marketing travaille sur les 5-7 ans. On devient supporter vers 5-7 ans. Parce que c'est là, c'est ton premier amour avec le football et tu vas t'accrocher. Tu vas changer de femme, tu vas changer de boulot, tu vas changer de maison, mais tu ne vas pas changer de club. Ça, c'est une histoire. Donc, il est sûr que toute cette nouvelle génération qui aujourd'hui est élevée à FIFA, qui est élevé aux jeux vidéo, en fait, s'accroche à des joueurs et tout ça. Et en ce moment, ils s'accrochent à qui ? À Mbappé. Et peut-être que si Mbappé...
Ils ont le choix entre Thauvin et Mbappé. Bon,
donc, ils choisissent Mbappé, ils choisissent Neymar, ils choisiront. Et donc, on peut accorder aussi un petit peu aux supporters le droit d'être les seuls garants, en fait. Parce que les supporters ne bougeront pas de club.
Des voix qui portent dans le foot ou qui ont porté, et qu'on aime ou pas les personnages. Hein, je voudrais qu'on ne fasse pas le délit de sale gueule.
On voit de qui vous voulez parler.
Oui, mais pas que. Bernard Tapie, qui dit, écoutez, bon, nous, on a réussi un beau mariage. Si à Paris, il y a un beau mariage avec la Coupe d'Europe, ça ne nous détruit pas notre mariage à nous. On a gagné la Coupe d'Europe, on a été les premiers à le faire. Et ensuite, si ce mariage fonctionne à Paris, tant mieux pour Paris. Et Jean-Pierre Papin également.
Vous pouvez rajouter Zinedine Zidane, qui est marseillais, qui vient de dire.
Ne me parlez plus de cela.
Mais en fait, eux, ils sont...
D'une certaine façon, alors, c'est pas dit comme cela, mais voilà. Non, si PSG gagne la Coupe d'Europe, tant mieux pour le PSG.
Mais moi, je ne dis pas que les Marseillais doivent espérer une défaite du Paris Saint-Germain. Je dis que, simplement, chacun a la liberté de penser ce qu'il veut. Je pense que Bernard Tapie, qui est un Parisien, rappelez-le-vous quand même, a le droit de penser comme ça. Moi, je pense plutôt comme lui. Mais d'autres ont le droit de porter un discours différent, tant qu'il n'y a pas de haine.
Juste un message terminé positif. J'étais sur un bateau pour aller à Porquerolles, ça va vous faire sourire. Une petite famille de Parisiens, tous habillés avec le maillot de Paris. Génial, quoi. Monsieur, son papa, les trois enfants. On monte sur le bateau. Là, il y a deux mecs qui font monter les gens sur le bateau. Il y en a un qui est super drôle, qui dit la première fois, c'était nous qui l'avons gagné. Il taquine, mais vraiment très sympa, le foot qu'on aime, quoi. Il y a toujours eu ces petites. Derrière, le même mec qui travaille sur le bateau, agressif. Enlève ce maillot. Qu'est-ce que tu fais ici avec ce maillot-là ? On ne pourra pas changer. Moi, ce que je demande juste pour terminer.
Les cons, hein.
On va juste pas changer des cons. Je vais juste terminer. Calmons le jeu. Essayons. C'est pour ça que moi, tant qu'il y a des discours.
Donc.
Mais soyons derrière. Moi, je suis pas fan de Paris, mais soyons derrière Paris
peut-être
demain.
Revoir le jugement, même si, pour le coup, là, il y aurait eu des actions judiciaires. Mais est-ce que le Parisien n'est pas un peu fadasse ? Il a envie de porter demain soir sur la Canebière le maillot du Paris Saint-Germain. Moi, je vais vous livrer une expérience personnelle. Il y a une dizaine d'années, je suis allé voir un match au Stade Vélodrome à titre très personnel, avec ma voiture. Je me suis mis au quatrième sous-sol d'un parking public. Mais quand je suis sorti pour reprendre en direction du Stade Vélodrome, juste avant le Stade Vélodrome, l'autoroute pour aller sur Nice, je peux vous dire que je me suis fait courser par les supporters. J'avais pas de maillot, j'avais une plaque d'immatriculation 75.
Incroyable.
Mais je crois que c'était des gens qui coûtaient Europe 1.
Non, mais on peut pas arriver à ça. C'est pour ça que.
Mais évidemment,
c'est pour ça qu'il faut vraiment faire passer le message. Moi, monsieur Tapie, je suis pas fan de Tapie, mais ce qu'il fait là, c'est intelligent. Ça permet de calmer le jeu. Oui, il y a quand même une bande de zozo demain, quoi qu'il arrive, qui vont vouloir casser. Il y a quand même une bande de zozo qui était aux Champs-Élysées il y a 4 jours. Donc, stop à la violence.
Chacun est dans son rôle. Bernard Tapie, Zidane, Papin, c'est là pour calmer parce qu'ils ont un poids sur les supporters. La ministre, dans la grandiloquence, comme d'habitude, et tout ça avec des mots.
Je t'assure.
Mais chacun est dans son rôle.
Je suis pas d'accord avec
Elle a raison. Non, mais il n'y a pas besoin de mettre en conscience. en conscience. C'est comme si on a un côté, non, on a un côté philosophique, religieux, en disant il faut que tout le monde soit derrière la France. Je pense qu'il y a d'autres projets de société qui devraient être créés pour que la France soit regroupée.
Il y a des choses plus importantes.
Oui, non, mais en plus, après, si on essaye de rationaliser ce discours en disant pourquoi être derrière la France, ok, il y a l'indice UEFA, donc bon, est-ce que c'est une bonne motivation auprès des Marseillais? C'est pas la peine, puisque de toute façon, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions sans considération sur l'indice UEFA.
Ça a un impact après, sur la durée, quand même.
Oui, après, vous allez dire la formation du football français. Bon, pourquoi pas, mais il y a plus de Français au Bayern qu'au PSG.
Et il y a même un Marseillais au Bayern. Hernandez est né à Marseille.
Donc, effectivement, les arguments rationnels sur ce sujet-là sont difficiles. Donc, laissons les gens, effectivement, sur l'émotion et sur ce qu'ils pensent.
Je pose la question, donc, toute la France et même Marseille derrière le Paris Saint-Germain, on connaît la réponse chez Sébastien Tarrago.
Mais non, la liberté.
Chacun comme il l'entend.
Xavier Barret, Stéphane Poels.
Chacun fait ce qui lui plaît.
En général, c'était oui ou non. Hein.
Tout le monde sait que c'est faux, mais oui, j'ai envie de dire que tout le monde va supporter Paris.
Karim Adjari.
Non.
Ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Twitter RTL Foot Baptiste Durieux.
Presque, oui. Message de Johan qui est assez long, donc accrochez-vous bien. On est dans une société manichéenne, nous dit Johan. On décide de faire ce qu'il est bon ou pas, où il y a forcément une pensée positive et une pensée négative. J'ai le droit de ne pas supporter Paris si mon cœur est phocéen, tout comme j'ai le droit de supporter le PSG sans trahir l'OM si mon cœur est avant tout français. On prend la France et le football français en otage en le plaçant comme argument décisif et on nous impose de supporter un club parce qu'il est français. Personne ne doit décider et avoir la main mise sur nos choix et nos sensibilités. Puis il termine. L'identité d'un club peut aller au-dessus du pays auquel il appartient. On parle de club, on ne parle pas de l'équipe de France, évidemment. Puis message un peu plus court de Nathan. Les Marseillais, on vous en veut pas, mais si on gagne, taisez-vous, tout simplement. On vous demande pas de nous supporter, on vous demande juste le silence.
Et vos avis nous intéressent quand ils sont exprimés normalement et argumentés normalement, comme c'est le cas sur le compte Twitter @RTLFoot. C'est votre émission 100% interactive. Vous pouvez évidemment réagir aux propos tenus ce soir par Karim Nedjari, Stéphane Poels, Xavier Barret et Sébastien Tarrago. Une page de publicité et le troisième débat de la soirée, est-ce une Ligue des Champions au rabais? Je pose la question.
RTL, on refait.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Elle te dit, elle rentre dans la conversation.
Et là, nous sommes à l'antenne. Elle rentre dans la conversation. Qui ça? On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. On ne dit pas de mal, Karim Nedjari, des confrères.
On disait que du bien. On disait que du bien.
J'ai jamais entendu Karim Nedjari dire du mal. Par contre, il en écrivait beaucoup. Venant de Sébastien Tarrago, ça va être high level. Là, ce que tu écrivais.
Je vous assure qu'un jour, il faudrait compiler tout ce qui se dit pendant les publicités en faire une véritable émission de radio.
Il y aurait peut-être. Mais là, c'était sympa.
Faut pas demander.
Je ne sais pas vous, mais je prends du plaisir à s'amuser avec vous. Et là, je vais laisser la parole au technicien.
Ah, oula, il faut faire entrer d'autres personnes.
Hein. Est-ce une Ligue des Champions au rabais? Alors, évidemment, j'entends les supporters du Paris Saint-Germain pour qui la victoire se profile à l'horizon et qui vont nous dire, ça y est, le PSG gagne sa première Coupe d'Europe et vous commencez par minimiser
ce n'est pas au rabais. Ce n'est pas au rabais, mais ce n'est pas la même Ligue des Champions.
Pourquoi?
Parce que la formule n'est plus la même. Donc vous êtes en train de comparer quelque chose qui est incomparable. Avant, bah oui, il y avait des matchs aller-retour, quart de finale, aller-retour, demi-finale, aller-retour. Et on est bien placé parfois de manière favorable, parfois de manière défavorable pour savoir que ça change beaucoup de choses. Donc elle est aussi très particulière parce que moi je crois que c'est pas un hasard si les Allemands et les Français sont les quatre derniers en lice. Puisque les Français, moi je pense qu'ils ont bénéficié sur le plan athlétique et physique de la coupure. Je pense que les Allemands, contrairement aux Italiens et aux Espagnols, ont fini beaucoup plus tôt leur championnat et donc ont pu un petit peu se reposer puis réeffectuer une préparation.
Ça, ce sont deux arguments que beaucoup physique. D'autres personnes vont.
Mais ils disent ce qu'ils veulent. La seule chose qui compte, c'est la constance. Moi, je le disais au printemps. Sur la France. Je disais peut-être que ce sera favorable, mais même sur un temps assez long, c'est-à-dire que jusqu'à l'Euro. Mais moi, je suis persuadé de ça.
C'est pas la même compétition, effectivement, parce que normalement, pour être champion d'Europe, il faut être bon toute la saison. Là, il faut juste être bon, comme pour une Coupe du Monde ou un Euro, pendant la période de la compétition. C'est-à-dire, vous montez un commando, et le Bayern et le PSG l'ont plutôt bien fait, puisqu'ils sont en finale. Les autres, soit sont passés à travers, soit parce qu'ils étaient cuits, effectivement, c'était le cas des Espagnols et des Italiens. Voire Manchester City, c'est un peu différent. Donc, on se retrouve finalement avec la finale de ceux qui ont bien préparé leur Coupe du Monde. Voilà.
Karim Nedjari.
Moi, je partage beaucoup de points de vue avec mes confrères, mais il restera une chose, c'est la ligne au palmarès. Et dans 10 ans, bien dans sûr. 20 ans, peut-être dans 50 ans,
non.
Les gens te diront, il avait gagné la Ligue des Champions. Qui a gagné la Ligue des Champions en 2020? On ne se souviendra pas qu'il y avait des matchs aller-retour. Et je me dis que c'est le moment ou jamais pour que
parce
le
que
PSG
tu seras vieux, Karim. Parce que tu seras vieux.
Mais non, on sera plus là même. On sera
non,
même plus
non
là.
Et non, trois fois non, disait Stéphane Powell.
Bien sûr que non, parce que d'abord, je suis assez d'accord sur les arguments que je viens d'entendre et comme quoi avec Sébastien, on peut parfois être d'accord.
Mais pas ceux de Juste,
mais non, parce que je pense vraiment. J'aime pas le mot rabais, moi. J'aime pas, je trouve que c'est réducteur. Oui. Non, mais elle est différente.
Les questions sont forcément
oui.
réductrices.
Elle est différente. Et je vais pas redire tout
ah
ce
ouais,
qui est.
Non, mais ça, c'est du politique pas encore. On sait qu'elle est différente.
Non, non, non.
On sait
non mais je vais vous dire un truc, moi, qui me fâche.
Est-ce que qualitativement, par exemple.
Ah, ben non, mais je vais vous répondre.
Je vais,
Christian. Christian, non, mais je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Je vais pas répondre. Je voudrais terminer. Je vais pas redire ce qui a été dit. Juste un truc. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, la Champions League, c'est les matchs en aller-retour. Si vous m'expliquez que Lyon. Il n'aurait pas ramassé à City. Écoutez, si vous me dites que le Paris Saint-Germain n'aurait pas eu un petit peu les chocottes en allant à l'Atalanta, on l'a vu à Dortmund, donc elle est différente. Elle se fait sur un match, comme dit Hervé, c'est comme une Coupe d'Europe ou un Championnat d'Europe sur une période de 10 jours. Donc je veux dire, moi ça me fatigue, parce que je pense que ce ne sera jamais pour moi une vraie Champions League. Et Karim, excuse-moi, dans 10 ans, peut-être que certains diront sur la ligne, ils l'ont gagné, les Marseillais te diront toujours, bah non, à jamais on était la première, c'était pas la même. Non, moi je dis bravo s'il la gagne, mais c'est pas la même.
Je suis content de ne pas partager un point de vue avec Stéphane, souvent d'accord. Mais dans ces cas-là, celle de l'OM n'était pas la bonne non plus. Parce que c'était en groupe. C'était par groupe.
C'était pas la même Ligue des Champions.
C'est pas la Ligue des Champions. Et pourtant, nous, on se gargarise parce qu'on en a gagné qu'une seule. Alors si en plus vous me la retirez, celle-là.
Ça, c'est français. Ça, c'est français.
Si vous nous retirez en plus celle que PSG pourrait gagner.
Non, mais.
Pour des fois qu'on gagne deux coupes.
Non, je comprends pas la démonstration.
Mais si, quand vous regardez les parcours de
parcours de l'OM
en 91 et en 93,
l'OM,
en fait, finale.
C'était pas des matchs aller-retour.
C'est pas tout à fait la même chose que d'affronter Manchester City.
Il faut rappeler à nos plus jeunes auditeurs que les fêtes, c'était deux groupes. Et donc, il n'y avait pas des matchs aller-retour. Ils sont arrivés directement après en finale.
C'est exact.
Voilà. Donc, en plus, c'était pas la vraie Ligue des Champions. Dans
Tupinaille,
ces cas-là, on aurait gagné deux.
Tupinaille.
On aurait gagné deux, mais c'était pas les bonnes à chaque fois.
Moi, je parlais de la qualité du jeu déployé,
ah, là, autre chose,
de l'intensité constatée, de l'absence de public. Ça peut aussi avoir une conséquence sur le jeu, Xavier Barret.
Non, sur le jeu, on a vu des beaux matchs. On a même vu des matchs assez spectaculaires, puisque les remontadas, elles avaient lieu pendant les 90 minutes, alors que d'habitude, on doit attendre le match
c'est
retour.
C'est pas la même chose, donc, un match spectaculaire ou il y a des beaux matchs. Hein.
Oui, non, mais les deux, des bons matchs. Oui, oui, on a eu des beaux matchs. Alors,
Xavier.
Effectivement, non, mais un Bayern-Barcelone, c'est spectaculaire. Oui. On ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment match. Mais le PSG-Atalanta, même si on a trépigné d'impatience
c'est
devant les échecs de Neymar.
Minutes, c'était mauvais, Hervé.
C'était
un bon match.
Hervé, il est où?
Non, est-ce que pendant 80 minutes, c'était un bon match?
Un sommet technique, sûrement pas.
Un bon match pendant 80 minutes.
Un sommet technique, non, mais un match avec beaucoup d'émotions, oui, bien sûr. Et les Coupes d'Europe, qu'est-ce qu'on retient? C'est ça. Quand on parle des matchs aller-retour, parce que ça provoque de l'émotion, c'est pas toujours des sommets de qualité technique, mais parce que tu as toujours cette incertitude qui existe jusqu'au bout.
Alors, je suis convaincu quand même que dans les matchs aller-retour, on l'a vu d'ailleurs avec le PSG qui est catastrophique à Dortmund, au match retour, ils mettent la deuxième et la troisième, ils élèvent leur niveau de jeu sur un match.
Au PSG en retour, le bras tremble souvent.
Ouais, mais enfin bon,
ouais.
Ça a été un peu mieux. Je veux dire par là, c'est que les matchs, quand on va dans un stade plein, chez l'adversaire, on doit élever son niveau de jeu. On doit mettre la barrière plus haut pour battre l'adversaire. Là, t'es sur un match dans un stade vide. C'est juste sur la qualité de ce que tu vois. Et regarde, le PSG, il peut commencer très mal son match contre l'Atalanta et terminer en beauté. Mais on peut pas dire qu'on a vu une qualité de football. Moi, je suis très déçu de la qualité de football sur cette Champions League. J'ai d'ailleurs vu des plus beaux matchs en Europa League. Parce que j'avais des équipes qui avaient faim, qui voulait peut-être arriver. J'ai vu des meilleurs matchs en Europa League.
Mais on est en train de vivre une époque, quand même, celle du Covid, où c'est très compliqué. On regarde un petit peu ce qui s'est passé en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Les niveaux de jeu et technique baissés, remontés, parce qu'on n'a pas, de coordonnées, on n'a pas de données simples, on n'a jamais vécu ça. Donc c'est très compliqué. Moi, je trouve que, malgré l'absence du public, malgré l'absence de compétition, je ne me suis pas ennuyé. Et Europa League, encore moins. Donc là, je me dis que c'est une compétition qui est différente, comme le Tour de France va être différent, et le vainqueur du Tour de France restera dans les annales.
Tu t'es jamais ennuyé pendant cette Champions League?
On s'ennuie tout.
Non, je regarde. Non, j'ai regardé.
Je pose la question volontairement pour vous énerver un peu, mais même avec des formules aller-retour, et alors dans les phases de groupe également, on s'ennuie aussi.
Dans les phases de groupe, on s'ennuie beaucoup.
Alors c'est une formule discutable pour les uns et intéressante à l'avenir pour les autres. Je crois pouvoir dire que de toutes les façons, on reviendra à des matchs aller-retour parce qu'il faut satisfaire les publics et puis le business est là, quoi.
Ah, mais tu peux. Attention. D'ailleurs, vous l'avez rappelé à travers l'exemple de Marseille en 1993, mais la formule, elle évolue tout le temps. Et je pense qu'il n'est pas totalement exclu qu'elle évolue dans les années qui viennent. C'est un succès, je crois, pour la plupart des gens, c'est un succès. Donc ça, l'UEFA, je pense qu'il l'entend. Et votre argument
du nombre de matchs, il peut se résoudre autrement.
C'est-à-dire ?
Mais vous pouvez arriver, vous pouvez changer de formule et avoir exactement le même nombre de matchs au final.
Moi, je pense que les télés seraient très intéressés pour faire un Final Four.
Bien sûr. Et une formule fermée, de plus en plus fermée. Vous verrez, on en a parlé avec Stéphane.
C'est déjà dans les... Au handball, au basket, ce sont des tournois.
Ce sont des Final Four.
Et pour une raison aussi, on en a beaucoup parlé, les calendriers aussi.
Et on l'avait évoqué lors du confinement et de nos débats avec Stéphane Poels, je m'en souviens, on pariait déjà sur une réflexion à venir sur une formule de plus en plus fermée.
Oui, parce qu'il y a trop de matchs qui sont...
Non, mais ça, c'est déjà dans les tuyaux, ça. C'est déjà dans les tuyaux, puisqu'ils veulent multiplier les matchs de poule. Il y avait déjà eu une première tentative au début des années 2000 pour faire deux phases de poule. Ça avait duré que 3 ans. Il y avait une première phase de poule avec 8 groupes de 4 et une deuxième phase de poule avec 4 groupes de 4. C'était probablement trop tôt, mais ça peut revenir.
Je pose la question, donc, est-ce une Ligue des champions au rabais, Sébastien Tarrago?
Un petit peu quand même.
Un petit peu quand même. Xavier Barret?
Non.
Stéphane Poels?
Oui.
Oui, et Karim Nedjari?
Différente.
Et les autres différentes. Et les auditeurs, j'arriverai jamais à avoir un oui ou un non. Mais je prends quand même, sur les réseaux sociaux, Baptiste Durieux.
Bah pour Ryan, la réponse est oui. Il nous dit la Ligue des Champions se définit en 2 points. Le match aller-retour et le but à l'extérieur. C'est ça qui fait toute la magie de cette coupe. Sans ça, cette compétition n'est plus la même. Et puis le message de Corentin, supporter parisien. Peut-être que cette compétition est au rabais, certes, mais tout le monde en bénéficie. Le Bayern, comme jadis Manchester City, la Juventus ou le FC Barcelone. Donc Paris peut être très fier d'être en finale. Et si trophée il ne sera pas en plastique, ce sera le vrai.
Et vous continuez de nous rejoindre, nous partageons vos réflexions bien évidemment. Nous sommes ensemble depuis 18h30, on refait le match nouvelle formule sur 1h30. Premier débat, c'est qui le plus fort, PSG ou Bayern? Deuxième débat, toute la France et même Marseille doit-elle être derrière le Paris Saint-Germain? Troisième débat à l'instant, est-ce une Ligue des Champions? Juste après la publicité, très courte respiration, Lyon. Lyon éliminé en demi-finale par le Bayern Munich, gare à la chute. Je pose la question.
RTL, on refait fusion. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
La dernière ligne droite dont on fait le match. Encore 30 minutes de débat en compagnie de Stéphane Poels, Karim Nedjari, Xavier Barret et Sébastien Tarrago. 20h-23h, le match qui va opposer au stade Pierre Mauroy.
Pierre Mauroy à Lille.
Toujours Pierre Mauroy. Hein.
Allez, le LOSC, tous les ch'timis chantent encore ce refrain.
Vous vouliez dire Clément Prépé-Joris?
Non, tout de même pas.
Non, parce que c'est notre génération à nous. Ouais, quoi.
Clément Pré, c'est fini.
Le match, donc.
Et le Stadium Rennes. Nord, entre-temps.
Oui, Villeneuve d'Ascq. Qui est
trop drôle. J'ai eu froid là-bas. Mon Dieu.
Ah, c'est bon pour les courants d'air.
Il existe toujours ce stade, d'ailleurs.
Oui.
Clément Prépé-Joris a été rasé, non?
Pas très loin.
C'était rasé, je crois. Ouais.
Crémant Préjoris.
Crémant Pré, il parlait de Stadium Nord. Oui, c'est un stade de la communauté urbaine. Il y a des jeunes qui font du sport, là, de l'athlétisme, tout ça. Mais Crémant Pré, c'était une zone qui était normalement défendue par les. Au niveau des territoires, quoi.
Des monuments historiques.
Et la Ligue 2.
C'est bien comme débat. Faut-il raser Villeneuve d'Ascq? Pas de problème.
Faut-il raser le Stade de France?
Ce sera un autre débat.
Pas tout chaud.
Intéressant. La Ligue 2, Anthony Tognetti, en Corse, à Ajaccio. Précisément.
La demi-heure de jeu ici au stade Ange Cazeneuve, toujours 0-0 entre l'AC Ajaccio et Châteauroux. Des buts sur d'autres terrains, par exemple Sochaux mène 1-0 face à Auxerre, but de Diédiou. Paris mène 1-0 face à Chambly grâce à Gaëtan Laura et Valenciennes mène 2-0 face à Pau, des buts de Guillaume et Chevalier. Sur les autres rencontres, Clermont-Caen, Amiens-Nancy et Guingamp-Niort et enfin Rodez-Grenoble, c'est 0-0 messieurs.
Et à tout à l'heure à la mi-temps dans une petite vingtaine de minutes, Anthony. On se retrouvera ensuite derrière les informations de 20h. Je voulais vous dire que cet après-midi également, c'était chez nos amis de Bein. Dunkerque est allé gagner à Toulouse sur le score d'un but à 0.
Monsieur Comolli n'est pas content.
Très bon commentaire. Chez nos amis de Bein.
Ah, ça, je n'en sais rien parce que j'étais en pleine préparation. Des émissions.
Mais ça commence mal pour Toulouse. Hein.
Mais c'est vrai, vous avez aimé?
Oui, très bien.
D'accord. Du consultant notamment.
Surtout, oui, bien sûr.
Olympique Lyonnais, gare à la chute. Alors Lyon a d'abord rempli son contrat en arrivant en demi-finale de Ligue des Champions où le contrat est un peu gâché par rapport à la prestation évidemment face au Bayern Munich. Qui veut prendre la parole? Qui veut se mouiller? Non, attention, Jean-Michel Aulas est peut-être à l'écoute.
Bah non, mais ce qu'ils ont fait, c'est fantastique. Tu élimines deux grands d'Europe. Enfin, la Juve, Manchester City, t'es éliminé certes en demi-finale, il n'y avait pas vraiment match, mais t'as pu y croire, t'as eu tes occasions, c'est un parcours exceptionnel. L'aurait-il fait sur des matchs aller-retour contre Manchester City? J'en sais rien, je m'en fiche, c'est pas la question. C'est un parcours extraordinaire pour ce club-là.
Extraordinaire. Alors, pour vous tous.
Moi, je suis content pour une chose, et je me suis fait beaucoup allumer sur les plateaux de la chaîne L'Équipe quand je prenais la défense du coach de Rudy Garcia. Alors je peux comprendre qu'il a pas fait que des choses bien, je peux comprendre que sa communication est compliquée, mais je suis toujours convaincu que c'est un excellent coach puisqu'il a travaillé dans le plus grand club du pays, c'est-à-dire le LOSC, et qu'il a gagné deux compétitions. Mais juste plus sérieusement, je trouve qu'il a fabriqué, construit une belle équipe. Cette équipe ressemblait vraiment à une magnifique équipe qui joue au football. Les allers-retours, on peut en reparler, d'accord.
Qui joue au football pas trop quand même.
Avec ses qualités, quoi. Moi, j'ai quand même aimé.
Derrière, et puis on fait de la transition.
Mais j'ai quand même été un peu sévère. Hein. Le petit jeune, là.
Awar.
Non, Awar, j'adore, mais.
Cacré.
C'est fantastique. Mmh. Ce qu'il a fait à son âge, les prestations, la volonté de mettre le pied. Il y a eu de l'engagement de cette équipe. C'est la marque de fabrique de Rudy Garcia. On va au pinceau, on met le pied. Mais moi, j'ai trouvé que cette équipe, elle a proposé des belles choses. Et si son attaquant se viande pas deux fois contre le Bayern, c'est peut-être aussi un autre match. Ils ont quand même deux occasions pour la mettre au fond.
Si, à l'arrivée, ils ne sont pas européens.
Nous sommes
pour
d'accord.
La première fois depuis 22 ans.
Ils ont fait un championnat. Ce
n'est pas la question, Xavier.
Question. Ils ont fait un championnat de on le sait. Mais là, on a vu
la question. Donc, si la question, c'est la saison est-elle réussie, on peut peut-être discuter.
Non,
mais le parcours européen, il est exceptionnel.
Oui, mais le parcours européen, il ne leur rapporte pas ce qu'ils veulent.
La question, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur.
C'est la suite.
Voilà, ce n'est pas finalement de qualifier le parcours européen, c'est gare à la chute. Parce que c'est en raison de cette élimination.
Et on se retrouve exactement dans la situation de l'OM de Rudy Garcia après la finale de l'Europa League, de la Ligue Europa en 2018. Exactement.
Et après, effectivement, une non-participation, il va falloir dégraisser.
Ben voilà.
Il va falloir dégraisser, gare à la chute.
Donc, c'est comme l'OM de Rudy Garcia, même entraîneur en 2018, après la finale de l'Europa League perdue contre l'Atlético. C'était magnifique, il y avait une belle épopée, l'OM
mais
super,
c'est pas,
et puis l'OM
n'était
pas
Rudy Garcia d'or. Qui va s'occuper du budget de
Xavier,
il y a
une différence,
Lyon,
c'est que c'est qu'il n'y a pas le déficit budgétaire, déjà. Parce que derrière, l'OM, il restait après un déficit budgétaire. Là, il n'y est pas. Ensuite, moi, je dis gare à la chute aussi, parce qu'on a vu une belle équipe de Lyon, mais une équipe de Lyon très arc-boutée sur sa défense. Donc là, en championnat de France, il va falloir jouer le jeu. Il va falloir ouvrir. Parce qu'on ne peut pas fermer le jeu comme ils ont fermé le jeu en jouant très bien. Ils m'ont donné beaucoup d'émotions et j'ai adoré. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Là, en championnat de France, il va falloir créer du jeu. Et créer du jeu avec des joueurs qui vont sans doute partir. On sait que Aouar va partir, qu'il est entre Manchester City et la Juventus Turin et que ça devrait se développer cette semaine. Donc il partira, c'est certain. Et sans doute un des deux attaquants, Depay ou Dembélé. Donc si vous perdez vos deux.
Non mais Karim, je voudrais juste une fois défendre Monsieur Aulas, pour une fois, parce qu'il en
pense. Personne n'a attaqué.
Non, mais moi je vais une fois le défendre. C'est un club qui vit de son économie, qui est coté en bourse et qui l'a construit avec ses bras et avec ses idées.
On est d'accord.
Ils sont d'accord. J'ai quand même vu quelque chose qui se passait. Je pense que l'arrivée de Bruno Cherou peut faire du bien. Je pense que Juninho a repris un petit peu confiance parce qu'il était quand même plus que dans les cordes. Il l'est toujours peut-être un peu, mais j'ai envie de faire confiance au président. Ils vont devoir vendre. Qu'est-ce que vous laissez l'économie? Ils ne sont pas en Coupe d'Europe cette année. Ils vont faire quoi? Ils vont pas manger des queues de cerises, quoi. Donc il y a un moment, ils vont devoir vendre. Et moi, je fais confiance à l'entraîneur. Je suis pas d'accord avec toi. C'est quand tu me dis Garcia n'est pas dans cette situation qui va arriver. Là maintenant, si Monsieur Aulas décide de vendre pour remplir les caisses avec Juninho, c'est pas de la faute à Rudy Garcia. Il a peut-être fauté à Marseille, je veux bien l'entendre. Mais là, on peut pas demander à Garcia de la suite. Est-ce qu'il est tributaire de cela?
Sébastien Tarago.
L'analogie entre l'Olympique de Marseille de Rudy Garcia après la finale de Ligue Europa et l'Olympique Lyonnais de cette saison me paraît excessive. Parce qu'il y a une grande différence. Cette saison, l'Olympique Lyonnais jouera un match par semaine. Ne disputera pas du tout de Coupe d'Europe. Ce n'était pas le cas de l'Olympique de Marseille. Et je pense que même en vendant, même en se séparant de certains joueurs, l'effectif de l'Olympique Lyonnais sera largement suffisant pour réaliser une très belle saison.
Alors, pour réaliser une très belle saison face à Marseille, qui a un effectif qui est ce qu'il est effectivement ajouté à la Ligue des Champions, calendrier compliqué, mais il y a quand même des clients.
Je demande d'avoir l'OM cette année.
Oui, mais alors, il y a d'autres clients.
On va bien rigoler.
Il y a d'autres clients quand même. Il y a Rennes.
Ouais, ok, on va rigoler aussi.
Il y a Lille.
Ok.
Ah,
il peut y avoir Monaco.
Pourquoi pas un jour.
Je dois en oublier un. Je parle pas du PSG.
Oui, non, mais après, c'est une compétition. Il y a des adversaires.
Ah ouais,
mais sinon,
la question,
sinon,
on va
mettre des combats truqués comme en boxe. Et puis, il n'y a pas de souci. Vous gagnez tout le match.
Au bout de 10-15 journées, selon les résultats de Lyon, ce sera plus. Attention à l'accident industriel.
Mais ça, c'est l'histoire de l'Olympique Lyonnais de ces dernières années. Ce club doit aller en Ligue des Champions. Un an, il peut sans doute survivre à cela. Mais deux ans, ce serait délicat. Mais ça, c'est le sport. C'est valable pour
tout. Tout va dépendre de la capacité à, comme toujours, à bien recruter. Et là, entre Garcia, Juninho, Aulas, il va falloir trouver les bonnes personnes pour remplacer et Aouar et sans doute un attaquant. Ça, c'est la vraie difficulté.
Ouais, ils ont un effectif.
Besoin de dégraisser l'effectif.
Mais oui, parce qu'ils ont un effectif construit pour jouer les Coupes d'Europe, pour jouer sur tous les tableaux. Ouais, c'est pas le cas. Il n'y aura que la France.
Ça peut être la même entre Juninho et Rudy Garcia. À chaud derrière le match. Tout de suite, Juninho a mis le débat sur la table. C'est-à-dire que les transferts, va falloir...
Juninho, il y a un problème.
Tout de suite, Rudy Garcia, ce qui est moins normal, a rectifié quand même son directeur.
Le problème, c'est que je pense que Rudy Garcia a pris confiance un petit peu. Donc maintenant, il essaie de prendre la parole. Juninho, il faut qu'il progresse dans la communication. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un à vendre, tu ne dis pas qu'il est à vendre. Tu attends que les prix
montent. Il est catastrophique dans sa communication, Juninho.
Quand il est arrivé le premier jour, quand il a défoncé Touzard, ouais. Et là maintenant en disant Aouar, de toute façon, il est à vendre, attendez, il reste là.
Il
raconte
que des conneries dans sa com, Juninho. Excuse-moi.
Non, attendez.
Moi, j'ai grand respect de la carrière qu'il a été. Dans sa communication, c'est catastrophique, excusez-moi. Et il va falloir que M. Aulas, lui qui prend tout le temps la parole et qui tweet, dise aussi à un moment à son Juninho, mon garçon, calme-toi. Il met en difficulté le club dans les transferts. Il raconte souvent des conneries.
Il l'a déjà dit, puisque maintenant, il a été placé sous la direction de son numéro 2, Vincent Ponceau, voilà. Il lui a mis un nouveau responsable du recrutement.
Gérard Rouillet est aussi
Gérard
très important
est toujours
dans les
là.
Choix.
Donc l'espace vital de Juninho. L'espace vital de Juninho aujourd'hui, c'est un placard. Hein, c'est un placard. Ouais, mais
le problème, c'est que médiatique, il fait toujours des sorties qui sont à côté de la plaque ou à contresens.
Ou alors il prépare Bruno Chéroux. Ou alors il prépare Bruno Chéroux pour prendre le poste après.
Qui prépare
Monsieur Aulas.
Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais le cas de Juninho est un souci, c'est un souci depuis plusieurs mois. Là, on essaye justement de nous raconter une petite musique différente, mais c'est un souci en interne et je pense que ça, pour le coup, ça va être quelque chose à régler. Sa mise sous tutelle, qui est passée relativement inaperçue, n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre du tout. Si Jean-Michel Aulas a pris cette décision, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a des problèmes et voulait qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute le sportif. C'est un dossier complexe. Mais pour revenir sur le terrain, je pense vraiment qu'il y aura un effectif très, très suffisant
pour se bagarrer. Pour
je le rejoue. Le club, l'équipe.
Christian, il y a un match de semaine, comme a dit Sébastien.
C'est compliqué.
Un match semaine. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils vont avoir les.
Il y a même plus de coupe de la Ligue maintenant pour faire tourner faire jouer les remplaçants. Donc, comment vous allez pouvoir retenir des joueurs de niveau international en leur disant, tu vas jouer la Ligue 1 et puis la Coupe de France à partir du mois de janvier.
Ils ont des contrats aussi, hein. Donc,
oui,
ils vont
pas
tous
partir.
Non plus.
C'est pour ça que ceux qui auront des propositions, forcément, ils seront tentés d'aller voir ailleurs.
Vous savez aussi la complication pour Monsieur Aulas, c'est que on le fait toujours passer pour une main de fer dans un gant de velours ou un mec très très dur. Et je pense que Juninho, c'est un vrai problème. C'est un peu comme son fils, quoi. Et qu'à un moment, c'est difficile. De se séparer de son fils. Et à un moment, c'est pour ça qu'il fait les choix maintenant de mettre
c'est
des.
C'est surtout son choix, Stéphane.
C'est son choix. Maintenant, il le met sous tutelle avec des autres et il est mal pris, quoi. Il est mal barré, monsieur Aulas, dans cette situation-là. Parce que...
Non, barré, c'est moi.
Oui, non, d'accord.
Ouais. Xavier barré.
Xavier,
moi, c'est lui. On a longtemps eu le sentiment que les choses s'étaient un peu normalisées. Et c'est peut-être une histoire qu'on a voulu nous vendre entre Rudy Garcia et Juninho.
Oui, mais parce que l'Olympique Lyonnais est un grand club et qui sait gérer. Tout ce genre de soucis, toujours. Ça, c'est la grande réussite de Jean-Michel Aulas, c'est la gestion des problèmes.
Vous vous souvenez,
il
avait réussi à recaser Jacques Santini à la Fédération Française de Football. C'est extraordinaire.
Non, mais t'as le quand miracle. Même là deux mâles dominants, quand même. Juninho, c'est une grosse personnalité dans le vestiaire en tant que joueur, c'est un leader. De l'autre côté, Rudy Garcia, qui est aussi une grosse personnalité. Donc il faut bien que quelqu'un prenne des décisions.
Observation très intéressante de Karim Nedjari. On a l'impression parfois que Juninho est davantage entraîneur que directeur sportif.
Ouais, mais moi c'est pire, j'ai
très proche des joueurs.
Je vais même te dire qu'il est commentateur souvent du jeu. Comme il pourrait être, à un moment donné, Zidane avait ce rôle-là au Real Madrid, à côté de Florentino Pérez. Vous savez, la conscience sportive, la gloire et tout ça. Je pense qu'il aurait été très bien dans ce rôle-là. Mais directeur sportif, c'est un métier tellement ingrat. Qui demande des connaissances administratives, d'être là tout le temps, d'être en l'ombrage, je ne suis pas sûr qu'il soit là-dessus.
Moi, je pense qu'il n'est pas fait pour ce métier.
Moi, je ne pense pas non plus.
Je pense que c'est un
et ce n'est pas lui manquer de respect, hein, de dire ça.
Non, non, moi, pas du tout. Surtout que le joueur qu'il était. C'est un très gentil garçon. Il dégage ça, d'ailleurs. Il dégage la gentillesse dans son regard et tout. Et pour faire ce genre de poste-là, il ne faut pas forcément être gentil. Hein. C'est un poste, il faut être dur. Ah oui, très dur. Et là, aller dans le vestiaire, c'est tout le temps le copain de Juninho.
Mais surtout, il faut de la maîtrise.
Il faut de la
Stéphane.
Maîtrise. Et
en interne, on lui reproche un manque de maturité et de maîtrise.
Il réagit encore trop comme
son rôle. Alors,
et il est trop émotionnel en fait.
Il réagit trop comme un joueur
encore.
Comme un capitaine. Regardez la malice que peut avoir un Leonardo qui a pris aussi son métier. Mais ça, un directeur sportif, il faut 10 ans de métier quoi. C'est tellement compliqué de gérer et le sommet, mais aussi le vestiaire.
Oui, alors inversement, Leonardo a su parfois s'effacer par rapport à les coups de boutoir de ses propres joueurs. Moi, je me souviens, moi ça m'a frappé.
C'est
le
truc
le plus emblématique, Zlatan effectivement, qui estimait que le PSG n'avait pas existé avant son arrivée. Ce jour-là, je pense que Leonardo aurait pu S'il avait vraiment l'autorité qu'on veut bien lui prêter auprès des grandes stars, il aurait pu quand même faire une mise au point.
Oui, mais son retour, justement, il a appris. Parce que son retour au PSG, il a changé. Dès qu'il est arrivé, il a recadré tout de suite Neymar. Bon, vous allez me dire, avec l'assentiment de l'émir du Qatar, qui lui avait dit, tu reviens, maintenant, tu as les pleins pouvoirs. Mais il a appris ça. Il a de la même manière avec Mbappé ou même l'an dernier quand avec Neymar en disant que tu ne partirais pas.
Enfin, avec,
pas
Meunier, avec Meunier là, ça viandait aussi avec d'autres. Moi je pense que
Meunier, parce que c'est des rapports de force.
Meunier, des rapports de force. Moi je pense
Meunier, il était sur le départ, il pouvait plus
enfin,
le tenir.
Les déclarations, non d'accord, mais à un moment il y a eu des ratés quelque part. Mais juste pour vous dire aussi, il y a un nouveau facteur. Ça a toujours existé, mais c'est de pire en pire. C'est le facteur des agents.
Et ils sont souvent deux fois.
Oh, ouais, non mais les agents, c'est terrible. Ça veut dire que ils mettent une telle pression à un moment de tous les côtés que les directeurs sportifs sont souvent mal pris. Quand on a travaillé en club, on le sait que ça se passe comme ça. C'est très dur le poste de directeur sportif. Et je pense que Juninho n'est pas encore prêt pour.
Oui, mais c'est d'ailleurs. Il a raison, parce qu'il faudra gérer ça, mais il faudra aussi, par exemple, gérer l'éclosion de Cherki. Cherki, très très vite, il va devenir très fort, très, très grand, il va avoir des sollicitations. C'est comment un directeur sportif va gérer Cherki ? Ouais. Ça, c'est un vrai dossier aussi.
Et c'est étonnant d'ailleurs que Jean-Michel Aulas ait pris ce risque de promouvoir comme ça aussi vite Juninho, alors qu'en général, les anciens de l'OL, justement, il les fait rentrer petit à petit.
On le sait aussi, pourquoi, Xavier ? Oui, on le sait aussi, c'était une manière de s'acheter aussi la tranquillité des tribunes.
Des supporters.
Oui, mais je pense qu'il y a de l'affect aussi. Je pense qu'il l'aime beaucoup. Et c'est dangereux dans les affaires de faire parler son cœur.
Je pose la question, donc, Olympique Lyonnais, gare à la chute ? Point d'interrogation, Sébastien Tarrago ?
Non, je suis optimiste.
Optimiste.
Pour eux, je m'en fiche, je suis pas supporter.
Non, c'est un club suffisamment solide pour effectivement descendre d'une marche pour mieux rebondir.
Ils vont faire une belle saison. Ils ont surtout, on n'en a pas parlé, un beau centre de formation. Il y a plein de jeunes derrière qui arrivent. Je ne suis pas inquiet avec un match de semaine.
Il faut arriver rapidement là.
Il y en a qui sont arrivés. Ah, le petit comment vous l'appelez ?
Cacré.
Maxence
Cacré.
Il est venu en 3 mois. J'ai dit non. Vous savez, l'anecdote, c'est Raymond Goutels qui ne savait jamais dire les prénoms.
C'est Memphis de
Paille. Il appelait Valide.
Et Zinedine Zidane.
J'étais avec lui, il me disait m'a dit bonjour à Valide. Il n'a jamais su appeler Valide. Je suis un peu belge.
Il y a la chute, Karim.
Non, le club est solide.
Et les réseaux, pour cette saison, je ne dis pas que le club est en voie de disparition, mais pour la saison à venir.
Ça me paraît un peu fort.
Les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot ou la page football sur le site internet RTL.fr. En régie, vous ne le voyez pas car l'émission ne l'a peut-être pas dit et filmée. Elle sera filmée tous les.
Eh
oui, elle sera filmée.
Et moi qui suis affalé depuis tout à l'heure.
J'ai pas fait mes cheveux.
Aux couleurs de RTL d'ailleurs, hein, Sébastien.
Toujours.
Et du PSG.
Les réseaux sociaux, Baptiste Durieux.
Oui, toujours beaucoup de messages, vous êtes vraiment nombreux à nous écrire aujourd'hui. Message de Mathieu, Lyon a prouvé qu'il était grand, qu'il était capable de jouer comme une grande équipe, mais une grande équipe, ça gagne le samedi à 17h, le dimanche à 13h, contre Lille ou contre Dijon. Et puis message de Loris aussi, avec ce parcours en LDC, Lyon, il n'y a aucune excuse pour ne pas finir deuxième à 3 points du PSG cette saison, surtout avec un match par semaine. Et puis pour terminer, petit message d'Antoine, remplacer Dembélé Aouar, c'est pas non plus remplacer Messi et Ronaldo. J'ose espérer que l'OL saura trouver les ressources nécessaires.
Merci beaucoup Baptiste. Alors les plus anciens s'en souviennent. La voix est un peu différente avec Baptiste qui se trouve en régie et non pas en studio. Et ça me fait penser au SVP, je ne sais plus combien, les dossiers de l'écran quand on appelait.
Ou alors moi, je ne suis pas si vieux. Hein.
Quand il y avait la lunette à vous également, le
SVP. J'étais au biberon, là.
Et SVP, je ne sais plus combien. Là, ça me fait penser un peu
au Minitel avec le Minitel.
Mais il est excellent, Baptiste Durieux. Et à vous, les auditeurs, merci encore de venir nous.
Armand Jameau, c'est ça le nom.
Armand Jameau, voilà.
Voilà ça, vous cherchez.
Les dossiers d'écran.
Vous perdez les gens.
Non, on en gagne.
On tourne une petite page de publicité.
Allons-y.
Encore. Quatrième ou cinquième, peu importe. Et dernier débat, en tous les cas, avant le 20h. Le championnat de France, la Ligue 1, va-t-on se régaler ? C'est mal parti, non ?
C'est mal parti.
Mais bon, soyons optimistes. A tout de suite.
RTL, on refait.
Économisons-la.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La toute dernière ligne droite en compagnie de Karim Nedjari, Stéphane Powell, Xavier Barré et Sébastien Tarrago. Pourquoi ce large sourire ?
Pour rien. Parce que j'étais effectivement affalé qu'il y a des vidéos maintenant de cette émission, je ne le savais pas. Voilà,
ça bosse en régie. Hein.
C'est bien.
Ça bosse en régie.
Je vais me tenir droit.
Je vous rappelle qu'hier soir, Bordeaux et Nantes ont fait match nul 0-0.
Ouais. Et pourquoi vous nous le rappelez ? Parce que c'était pas bon.
Peut-être que cet après-midi, Angers est allé gagner à Dijon. Bravo. Par 1-0. Oui. La suite du programme tout au long du week-end, et notamment ce soir avec Lille à Rennes. Ma question est la suivante. Ce championnat de France va-t-il vous régaler ? C'est difficile de répondre à ce genre de questions, mais est-ce qu'on peut être raisonnablement optimiste ?
Non, Sébastien Tarragou. Ce qui pourrait rendre la Ligue 1 un tout petit peu attrayante, ce serait un semblant de suspense à la tête du championnat. Pour cela, peut-être faut-il espérer que le PSG gagne la Ligue des Champions, que le mois de septembre devienne difficile, qu'il perde beaucoup de points, je ne sais pas. Mais sinon, pour parler de la qualité technique, de la qualité du jeu, tout simplement, en France, je crois que c'est un rêve qui ne se réalisera pas. Je suis désolé, vous suiviez tous les samedis soirs notre cher Ligue 1 pour le multiplex RTL. Mm-hmm. Je crois que vous connaissez bien l'ampleur des dégâts sur les clubs qui sont entre la 5e et la 20e place en France.
Championnat homogène.
Voilà, merci beaucoup. Mais votre côté politiquement correct ressort à nouveau.
À la radio toujours, sur Twitter un peu moins.
Ouais, ouais. mais voilà, bon, et malheureusement, le confinement leur a peut-être permis de se reposer, mais pas d'apprendre à faire des frappes dans la lucarne à 45 mètres.
Karim Nedjari.
Bon, j'ai bien senti une pointe d'ironie quand vous parlez de régaler. Non, c'est une vraie... Moi, j'ai une énorme admiration pour les gens qui les multiplex du samedi soir. Quand maintenant il n'y en a plus, ils l'ont tiré. Je me souviens de Karim Benani à Canal+, lorsqu'il faisait dans sa petite boîte pour animer les 5 matchs du samedi soir. C'était terrible. C'est terrible. Il y avait une torpeur parce que personne dans les tribunes, jeu fermé, technique faible. Voilà. Moi, j'en ai marre aussi qu'à chaque fois qu'on croise quelqu'un dans la rue, on nous dit « Oui, mais vous tapez tout le temps sur la Ligue 1, vous n'aimez pas. » C'est très compliqué. Donc, comme le niveau est homogène, on va reprendre votre expression, entre la 5e et le 10e, et que le titre de champion est déjà décidé au bout de la première ou de la deuxième journée, c'est très compliqué ensuite de pouvoir mettre en valeur ce championnat. Alors parfois, on tombe sur une pépite. Parfois, on tombe sur un match. Voilà. Mais j'espère qu'en tout cas, il y aura un match entre la deuxième et la sixième place, on va dire.
Stéphane Powels.
Celui qui va fausser toute l'histoire, c'est le Covid. On peut dire ce qu'on veut, mais ce Covid va tuer un petit peu toute cette dynamique de stade, le monde, l'envie d'aller au foot et de voir des matchs. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Effectivement, on a un fossé entre les 2-3 et le reste derrière. J'ai envie de croire tout le temps qu'il y a des pépites qui sortent dans chaque équipe. Et j'ai aussi envie de soutenir tous ces clubs qui, à cause aussi du Covid, vont... J'ai eu cette semaine Grégory Lorenzi, qui est le manager de Brest, hein, le directeur sportif de Brest, qui est un charmant garçon, et qui m'expliquait toute la problématique. Même un joueur qui joue plus à Saint-Etienne, ils ne savent pas le prendre parce qu'ils ne savent pas s'aligner sur les salaires. Si je vous parle de ça, c'est que ça va être de plus en plus compliqué pour ces clubs de seconde zone, sans être violent avec ces clubs-là, de pouvoir survivre. Et donc, on va devoir remettre le travail et les efforts sur les centres de formation, ce qui est pour moi une bonne chose, puisqu'à un moment, on a quand même, il faut être honnête, un petit peu laissé tomber les centres de formation. Pas tout le monde, mais il y a des clubs qui ont eu moins de regards.
On se dit qu'on a les meilleurs centres de formation du football européen.
Non, mais surtout, ce qui va devoir se faire, c'est, je vous l'ai déjà dit, on l'a dit pendant le Covid, pendant 3 mois, Christian, il va falloir revoir l'échelle des salaires. Je pense que c'est la base pour le football français de rééquilibrer et d'arrêter que le mec qui fait 3 passes, on lui donne 60 000 euros par mois. Il va falloir qu'on régule tout cela pour pouvoir faire que ce football, il y a de retour, vous parlez d'homogénéité et de vous. Il va falloir qu'on augmente et qu'on rééquilibre tout cela pour que les gens soient sur la même baseline.
C'est mal parti parce que Aouchiche, qui a signé donc à l'AS Saint-Etienne, c'est 65 minutes de jeu en Ligue 1.
C'est fou. Hein.
Prime à la signature, 4 millions d'euros.
C'est fou.
Salaire, 100 000 euros brut par mois.
Moi, ça, quand vous me dites ça, regardez, vraiment, ouais. je ne triche pas. J'ai les poils qui dressent. Ça me rend dingue. Parce qu'on travaille, on forme des jeunes, on leur donne une culture de faire du sport, de devenir un joueur professionnel. Et on fait 3 passes et on parle que de pognon. Et moi, ça me rend dingue parce que ça met les clubs aussi en difficulté. Il y aura moins de sponsors. Et les sponsors, forcément, ils peuvent moins de mettre de l'argent puisqu'ils doivent régler d'abord leurs problèmes d'entreprise, ce football.
Après,
le Covid va être. Ça va être difficile.
Oui, mais tu as des droits télé qui augmentent d'un tiers de la valeur de ce qu'ils étaient avant. Bah, c'est quand même ce qui assure la majeure partie des budgets des clubs professionnels français, enfin en Ligue 1 en tout cas. Donc tu te retrouves avec une manne financière supérieure pour les 4 années à venir. Alors on dit que certains clubs avaient déjà anticipé cette manne-là en faisant signer des contrats dès la saison dernière, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, pour le recrutement, tu te bases sur les rentrées, alors tu perds des spectateurs probablement, mais si tu te bases sur les rentrées droit télé, tu vas gagner plus d'argent.
Faisons attention, Xavier, hein, parce que le Canal et Bein Sport n'ont pas donné tout l'argent qu'ils devaient parce que à cause du Covid, tous les matchs n'ont pas eu lieu, que la stack n'était pas au rendez-vous.
Bien sûr,
attention que Mediapro dise nous on a mis 1,2 milliard et le résultat, le spectacle n'est pas là. Oui. Attention qu'à la fin de l'année, certains clubs ont fait de la cavalerie, on sait très bien.
Et si jamais l'argent ne rentre pas, il y a certains
qui le faisaient déjà.
Mais c'est-à-dire qu'ils ont déjà dépensé l'argent qui devait arriver. Ils sont allés voir les banquiers en disant on va toucher tant sur les 3 années qui vont arriver. 4. Donc ils ont nanti déjà les droits. Mais c'est ça la vraie difficulté.
Les clubs français le font depuis longtemps, ça. Puisque chaque année, la DNCG arrive, on a 3, 4, 5 clubs qui sont recrutement contrôlés, puis ils vendent un joueur, ils remettent les comptes à zéro, et ça.
On parle d'économie. Et si on parle d'économie, ça ne pourra passer que par. Une grille de salaire. Vous avez entendu ce que vient de dire Sébastien Tarragon? C'est surréaliste, quoi. Ces sommes-là. Il va falloir qu'à un moment, on mette des tarifs. Qui peut imposer ça?
Le nouveau président de la Ligue qui va arriver? Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, les 20, pour.
C'est le marché qui va imposer ça.
Pour arrêter ou continuer le championnat. Ils n'ont même pas réussi à aller voir ensemble les diffuseurs. Qui va mettre. Je suis d'accord qu'il faudra une révolution pour ça.
Qui?
Mais voilà. Mais d'ailleurs, on fait un plafond de verre, on dit maintenant on ne dépense pas autant d'argent. C'est pas vrai. Présidents iront derrière et ils me donneront d'autres argent et plus cher encore.
Alors on va mourir.
Non, c'est le marché qui va décider ça. À partir du moment où ton joueur, il y a moins de risques qu'il aille en deuxième division anglaise parce qu'il est mieux payé en championship qu'en Ligue 1, tu as plus de chances de le garder et effectivement, tu ne seras pas obligé de monter au cocotier.
Mais
tu
as raison. D'ailleurs, vous allez avoir le président de Lille tout à l'heure, je pense, au téléphone. Moi, il y a un truc, vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que je suis concerné, parce que c'était mon pays. Lille vient d'acheter un attaquant.
David.
Très bien. 30 millions d'euros.
On s'en est aperçu quand même.
Mais c'est quand même. Non, mais c'est surréaliste. Non, mais c'est le montant
que Osimhen, il a été acheté combien?
9.
Mais il est vendu combien?
70.
T'as la réponse avec ta.
Oui, mais sauf que l'auto, tu gagnes pas tous les ans. Je dirais le 421 non plus. De temps en temps, il faut quand même un petit peu.
On va lui poser la question.
David est un très bon joueur. Mais je trouve que 30 millions, un joueur qui vient de la Gantoise après 2 bonnes saisons, c'est très cher. Mais il va répondre.
Mais visiblement, il y avait la concurrence. Mais
il va te répondre la concurrence et que s'il ne s'alignait pas, il ne l'aurait pas eu. Bon, c'est un choix de club. Ils ont de l'argent, ils ont vendu. Mais on en est là. Moi, je trouve que ça part en sucette. On parle bien de Lille et de la Gantoise. On parle pas de Manchester United qui a acheté un joueur au Real de Madrid. On en est là. C'est-à-dire tous ces sommes d'argent prennent une dimension surréaliste.
Parce qu'aujourd'hui, les clubs spéculent sur les jeunes, les prospects, sur lesquels ils peuvent éventuellement faire des plus-values. Pour le moment, Lille se débrouille pas trop mal.
Mais il n'est pas question de critiquer l'AS Saint-Etienne, par exemple. Je pense qu'effectivement, ce club pourrait être récompensé financièrement dans quelques années, et peut-être même très rapidement. Mais ça devient indécent et stupide. Voilà,
et on n'a pas parlé du Corona, parce qu'il y a un gros danger qui plane sur la compétition et bien sûr les matchs à venir.
Parce que vous parlez quelle saison on va vivre, mais on n'en sait rien. Hein. Avec le Covid, qu'est-ce qui va se passer? Et on va faire confiance.
Il faudra peut-être assouplir le protocole sanitaire, ça c'est sûr.
Le championnat de France va-t-il nous régaler, Sébastien Tarrago?
Non.
Le championnat de France va-t-il nous régaler, Xavier Barré?
Je crains que non.
Le championnat de France va-t-il nous régaler, Stéphane Powels?
Demandez au Covid.
Le championnat de France va-t-il nous régaler, Karim Nadjari?
Je ne crois pas.
Vous ne croyez pas. Le championnat de France va-t-il nous régaler? Qu'en pensent les auditeurs? Baptiste Durieux, alors l'adjoint, non pas l'adjoint, mais celui qui s'occupait de SVP, c'était Guy Darbois.
Vous vous souvenez, Guy Darbois? Vous êtes sur les dossiers. Ah ouais. Ah. Vous êtes sur la balle.
Il a appelé.
C'est un supporter, Jean-Marc, fidèle auditeur. D'accord. De RTL. On n'a pas de Baptiste Durieux? Alors parfois il y avait des pannes avec Guy Darbois, donc on a une petite panne.
Mais aussi avec Baptiste.
Avec Baptiste Durieux. La Ligue 2, mi-temps en Corse, Anthony Tognetti.
Effectivement, Christian, 0-0 entre l'AC Ajaccio et Châteauroux. Clermont-Camp, 0-0. Amiens-Nancy, 0-0. Sochaux mène 1-0 du côté d'Auxerre, but de Diédiou. Paris mène 1-0 du côté de Chambly, but de Gaëtan Laura. Niort mène 1-0 face à Guingamp, but de Bas. C'est à Guingamp le match pour préciser. Rodez, Grenoble, 0-0. 0-0 et enfin Valenciennes-Pau 2-0 pour Valenciennes, but de Guillaume et Chevalier.
Et on se retrouvera bien évidemment après 20h pour les secondes périodes. Messieurs, ça a été un plaisir pour cette première dont on fait le match. On pourra toujours améliorer, comme pour le jeu des footballeurs qu'on critique, eh bien, nous, celui des journalistes doit être toujours améliorable, mais ça a été un plaisir.
Bah écoutez, nous aussi,
Sébastien, plaisir Tarrago. Partagé.
Stéphane a été pas mal. Il a moins de marge de progression que les autres, peut-être.
Vous voulez dire qu'il plafonne un peu?
Ces
mots vous appartiennent.
Hervé a été très bon.
Moi, par contre, je trouve, en tout faillot que je suis, je termine. Moi, je trouve que le meilleur autour de la table, c'est Christian Olivier.
C'est bon.
Comme ça, ça me fait
Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe. L'une des grandes voix du foot européen, Xavier Barré. Stéphane Powels, chroniqueur, multicarp, mais surtout chroniqueur à RTL, bien évidemment. Et Karim Nedjari, directeur éditorial sport du groupe Webedia. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
À très bientôt.
Merci, Christian.
On fait le match samedi prochain à 18h30.
Et demain.
et demain, bien évidemment. Merci Stéphane Powels avec la grande finale sur l'antenne de RTL. Après 20h, très rapidement, la suite du programme football avec toute l'équipe du service des sports et les envoyés spéciaux également de RTL à Lisbonne pour prendre des nouvelles justement des préparatifs de Paris Saint-Germain, Bayern Munich. À tout de suite.
RTL, on refait.